Daniel Gilles, hop, on dé Boris, on démarre. Et faut que Daniel soit là. Daniel, s'il vous plaît, vous asseoir. Nous allons démarrer le direct. Il y a des caméras de captation à gauche, à droite, au milieu. Donc, il est important qu'on puisse tous voir, à la fois pour ceux qui sont présents ici dans l'amphithéâtre à Bodin, mais également pour ceux qui sont à distance, qui sont nombreux, qui vont nous suivre ce soir pour ce grand débat. Je ne sais pas si on est en direct. Boris, on démarre. Peut-être j'appelle avec moi les cinq mousquetaires qui ont participé à l'organisation de ce grand débat. Oui, cinq mousquetaires, effectivement. Vous dire deux choses, trois choses très rapidement. Déjà, vous dire qu'on est très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui. Merci aux candidats qui ont accepté de venir aujourd'hui pour présenter leur opinion, leur point de vue sur l'avenir du Pacte vert. C'est extrêmement important parce que c'est l'Europe aujourd'hui qui est pionnière en matière environnementale, et donc c'est à l'échelle européenne que ça va jouer. Et donc on est très heureux de vous accueillir et que vous ayez accepté également d'échanger avec Jean-Marc Jancovici, ici présent, qui va pouvoir aussi vous présenter les enjeux de ce débat aujourd'hui. Deuxième chose très importante, on a souhaité, les shifters, pouvoir organiser un débat qui soit gratuit, ouvert, grand public. Et on est ravis que l'Université d'Angers et l'IAE aient accepté de nous accueillir ici, qui a permis finalement la bonne réalisation de ce débat. Et enfin, merci aussi à tous les autres partenaires de cet événement. Ils sont nombreux, je ne pourrais pas tous les citer au risque d'en oublier, mais en tout cas, sans vous, ce n'aurait pas été possible. En tout cas, on est ravis, c'est inédit, et je pense que ça marquera fortement ce débat des Européennes. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Bon débat, et merci à nos deux animateurs, Anja Nussbaum, et j'espère que je n'ai pas écorché, pardon, et Jean-Marc Vittori pour animer ce débat. Je vous cède tout de suite la parole. Merci beaucoup.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être ici à Angers pour ce débat sur les enjeux climatiques et les élections européennes que nous espérons à la fois grand public et un débat de fond. Je me présente pour commencer puisqu'on va passer 2 heures ensemble. Moi, je suis Anja Nussbaum, je suis correspondante à l'Élysée et journaliste pour Bloomberg et je co-animerai ce débat avec mon confrère.
Hop. Donc, je recommence. Jean-Marc Vittori, éditorialiste au quotidien Les Échos.
Et nous sommes donc en présence des principales têtes de liste des élections européennes en France, qui sont tous présents sauf Jordan Bardella, remplacé par Jean-Philippe Tanqui. Votre placement a été déterminé par tirage au sort. Il s'agit donc de Valérie Ayé pour la liste Besoin d'Europe, Raphaël Glucksmann pour la liste Place publique et Parti socialiste, Manon Aubry pour la France insoumise, Marie Toussaint pour les écologistes, Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement national, François-Xavier Bellamy pour les Républicains. Et nous avons également en guest star Jean-Marc Jancovici du Shift Project, qui travaille sur la question du défi climatique depuis plus de 10 ans. Voilà. Jean-Marc et moi, on n'aura pas la possibilité de fact-checker tout ce que disent les candidats, puisque par définition, on est sur scène. Donc, on vous invite à faire ça sur les réseaux sociaux depuis chez vous. Jean-Marc, je te passe la
Oui, donc
parole.
l'originalité de ce débat, hein, vous l'avez compris, c'est qu'il n'y a pas seulement les candidats, mais aussi Jean-Marc Jancovici, qui va être une force de proposition et d'interpellation de ces candidats. Pourquoi ce débat est-il essentiel? Pendant la campagne, on va sans doute beaucoup parler d'Ukraine, et c'est normal, car il y a là une question existentielle qui touche aux racines même de la construction communautaire. Mais on voit bien, à travers toute une série d'indices, de mouvements, d'élections locales ces derniers mois, que la transition énergétique et écologique devient en Europe un axe majeur du débat et peut-être aussi un axe de fracturation de la vie politique.
C'est un débat crucial parce que le Parlement européen et singulièrement l'Union européenne ont un rôle important dans la définition des politiques climatiques des États membres. Et l'Union européenne est de plus en plus compétente sur les questions d'énergie. Et ce, surtout depuis l'adoption d'une feuille de route dont on va beaucoup parler ce soir. C'est le Green Deal, en bon français, le Pacte vert, qui a été adopté en 2019 et qui fait des objectifs climatiques des objectifs à la fois transversaux et systémiques. On ne va pas parler de tout le contenu du pacte vert parce qu'on n'a que 2 heures ensemble. Mais en gros, il y a l'abandon progressif du charbon, la réduction de l'usage des pesticides, des antibiotiques, la sanctuarisation des zones protégées, etc. Et la création d'outils de financement. Ça a été adopté pourtant dans un contexte très différent de celui d'aujourd'hui, Jean-Marc.
Oui, puisque c'était en 2019, à un moment où les taux d'intérêt étaient bas, l'argent abondant. Depuis, il y a eu une épidémie, il y a eu une guerre en Ukraine. Il y a aussi une mobilisation d'agriculteurs un peu partout en Europe. Et puis les taux d'intérêt ont remonté. Beaucoup de responsables politiques sont clairement devenus plus sensibles à ces questions. Mais les trajectoires qui engendrent des changements climatiques, elles, n'ont pas été infléchies. Certains textes sont bloqués au Parlement européen ou non proposés, comme la taxation de l'énergie ou l'action sur la biodiversité. D'autres sont en cours de négociation, par exemple sur le verdissement des transports. Or, le Parlement européen joue un rôle crucial dans la mise en œuvre du pacte vert, car c'est lui, évidemment, qui vote les propositions législatives qui en découlent. C'est lui encore qui assure la surveillance de sa mise en œuvre par la Commission et les États membres de l'Union européenne.
Et ce sera donc vous, cher candidat, votre responsabilité d'assurer la mise en œuvre de ce pacte vert.
Le Parlement européen a longtemps fonctionné en forgeant des compromis entre partis centristes, PPE à droite, socialistes à gauche. Cette fois-ci, il est possible que le Parlement bascule à droite. Or, certains leaders du PPE ont déjà annoncé vouloir revenir sur certaines mesures du pacte vert. Donc oui, il y a clairement dans ces élections un enjeu majeur.
Et maintenant me revient le privilège de vous faire un petit point sur le déroulement des règles du jeu et du débat. Alors, tout d'abord, et désolé d'avance, nous serons intraitables sur le temps de parole. Surtout, ne vous vexez pas si on vous coupe. Vraiment, c'est pas par des courtoisies, c'est vraiment parce qu'on a un temps imparti très très court. Lorsque vous dépasserez votre temps, le temps sera décompté des prochaines questions, donc c'est dans votre intérêt de ne pas le dépasser. Jean-Marc Vittori et moi, nous répartirons les rôles à chaque séquence. Il y en a un qui sera maître des horloges, l'autre sera maître du débat. Et pour qu'on s'entende, je vous demanderai, dans la mesure du possible, de ne pas vous couper la parole. Enfin, sauf nous, on est les seuls à pouvoir vous couper la parole, finalement. Et de ne pas parler en même temps. Au public, merci encore d'être là. On vous demande un maximum d'éviter les invectives, même les applaudissements, parce que ça prend du temps. Et parce que, en fait, on veut s'écouter dans toute la bienveillance et la générosité qui nous caractérise, évidemment. Jean-Marc, tu peux nous présenter les séquences ?
Oui, bien, il y a 4 sujets de discussion très concrets pour comprendre les enjeux de l'European Green Deal. D'abord, la fin des véhicules thermiques programmés pour 2035. Ensuite, la souveraineté énergétique et le mix des énergies à composer, à recomposer. Troisième thème, la sobriété nécessaire, et on prendra là l'exemple de l'avion. Et le quatrième thème est le financement de la transition, et on prendra là, ici, l'exemple de la rénovation des bâtiments.
Pour ces 4 thèmes, les shifters, merci à eux, ont résumé leurs propositions dans des slides qui sont affichés derrière nous. Chaque candidat, à chaque fois, aura 2 minutes 30 pour répondre. Encore une fois, nous serons les maîtres du temps, selon un ordre passage qui a été défini par un tirage au sort. Et pour conclure, c'est Jean-Marc Jancovici qui aura 1 minute pour présenter ses propositions et celles du shift. Et justement, on va donner la parole en introduction à Jean-Marc Jancovici. Vous avez 4 minutes, si vous le voulez bien, pour nous exposer les propositions du Shift Project sur le Green Deal. Merci.
Là, c'est bon. Voilà. Moi, je vais commencer par remercier les shifters d'avoir organisé ce débat et vous dire, pour celles et ceux dans la salle qui ne savent pas ce que c'est que les shifters, vous présenter, je vais prendre 15 secondes de mon temps de parole pour vous présenter l'organisation qui a organisé cette affaire. Le Shift Project est une association qui est née en 2010 avec la vocation de militer pour la décarbonation de l'économie parce que nous pensons que c'est un point de passage obligé, qu'on en ait envie ou qu'on n'en ait pas envie, et je vais y revenir dans pas très longtemps. Le Shift Project a d'entrée de jeu voulu être une association d'entreprise. Pourquoi d'entreprise ? Parce qu'on pense qu'on a un rôle utile en mangeant avec le diable, avec une grande fourchette. Et donc, il faut des gens qui les houspillent de l'extérieur, mais aussi des gens qui les aident de l'intérieur et des gens qui dialoguent à l'intérieur. Il faut ces deux acteurs-là pour que le système se transforme. Et comme nous étions une association d'entreprise, on a créé une association cousine qui s'appelle les Shifters, qui est maintenant la deuxième jambe du Shift Project, on va dire, et qui rassemble tous les bénévoles, toutes les personnes physiques qui ont envie d'aider aux travaux du Shift, et dont la manifestation de ce soir est une réalisation parmi d'autres, une réalisation qui sera probablement plus visible que d'autres. Voilà ce que c'est que le Shift Project et les Shifters. En ce qui concerne les européennes, vous ne le savez peut-être pas pour une partie des plus jeunes dans cette salle, mais c'est probablement l'élection la plus importante à laquelle nous ayons affaire en ce qui concerne les sujets environnementaux. Depuis que la France fait partie de l'Union européenne, 80 à 90% de la réglementation environnementale applicable aux entreprises et aux particuliers est d'inspiration européenne. L'efficacité énergétique des bâtiments, l'Europe. Les transports, l'Europe. La réglementation des substances toxiques dans la chimie, l'Europe. Natura 2000, l'Europe, enfin, etc., je pourrais vous dire. Donc, les élections européennes, elles ne doivent pas être vues comme un prolongement ou une réaction à la situation politique nationale. Elles ont leur enjeu propre, qui est de d'élire des membres dans un Parlement européen et derrière quelque chose qui va structurer la composition d'une commission qui va légiférer par des règlements et par des directives avec des textes qui sont extrêmement importants, encore une fois, en ce qui concerne la vie nationale. Donc c'est dommage, de mon point de vue, mais j'espère que tous les jeunes dans cette salle vont aller voter, c'est dommage, de mon point de vue, que ce soit une des élections qui soit la moins, affectée. Français n'aiment pas tellement l'élection européenne, ils vont moins voter que pour leur président, alors que, quand vous regardez les choses sur le long cours, c'est peut-être plus important. Pour finir cette brève introduction, pourquoi est-ce qu'on va avoir droit à la décarbonation, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas ? Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons est totalement bâti sur les combustibles fossiles, ceux qu'on utilise chez nous, mais également tous ceux qui sont utilisés dans les produits dont nous importons nos vêtements, nos montres, nos lunettes, nos voitures, nos fauteuils, nos canapés, les cols et les vernis, etc. Il faut savoir que la moitié de l'énergie qui permet aujourd'hui aux Français de vivre comme ils vivent, elle est utilisée hors des frontières. Donc nous sommes placés dans un système mondialisé sous perfusion d'énergie fossile et toute la difficulté de la décarbonation, c'est de se passer de ce qui a permis l'émergence des deux derniers siècles tout en conservant les bénéfices des deux derniers siècles. Évidemment, ce n'est pas simple. Ça engendre plein de réactions de déni, d'incompréhension, de rejet, etc. parce que c'est un problème monstrueusement compliqué. Mais il va bien falloir faire avec parce que nous avons d'un côté un problème d'exutoire, c'est-à-dire un problème d'excès de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui est susceptible de déclencher une dérive climatique à laquelle nous ne serons pas capables de faire face en bon ordre. Et de l'autre côté, nous avons un problème amont de ressources parce que comme il faut 50 à 400 millions d'années pour faire du pétrole, du gaz et du charbon, de toute façon, quand bien même nous n'aurions pas de problème de climat, nous ne pouvons pas continuer à en utiliser toujours autant. Et pour votre information, le maximum historique à date de la production de pétrole dans le monde, c'était novembre 2018, on n'est toujours pas revenu à ce niveau-là. Et l'Europe est sous décrue, c'est un travail du Shift qu'il a montré de manière, de manière très documentée il y a maintenant un an et deux ans. L'Europe est déjà sous décrue, sous contrainte en ce qui concerne son approvisionnement en combustibles fossiles. Et d'ici à 5 ans, cette décrue va très fortement s'amplifier, qu'on se soucie du climat ou pas. Donc la décarbonation de l'économie européenne est un enjeu de sauvegarde, quand bien même le reste du monde ne ferait strictement rien sur le climat. Voilà. J'ai fini cette brève introduction et maintenant je rends le micro.
Merci Jean-Marc. Première intervention, réaction, tour de chauffe pour chacun des candidats, dans l'ordre tiré au hasard et qui est au sort et qui a déterminé votre positionnement sur cette scène. On commence donc par Valérie Ayer, Besoin d'Europe. Une minute.
Hop. Faut appuyer sur le... Pardon.
Et tenir le micro.
Allez. Il faut appuyer et tenir, ce qui rend la chose extrêmement facile. Bon, d'abord, merci. Bonjour à tous, bonsoir à tous et merci aux Shifters d'avoir organisé ce débat. Moi, je voudrais vous parler, ça fait deux jours que je suis dans la région entre Nantes et Angers, je voudrais parler d'une initiative, d'une entreprise que j'ai visitée ce matin et qui illustre bien ce que c'est que la transition environnementale, créatrice d'emplois, de croissance et aussi qui nous permet de sortir de nos dépendances. C'est une entreprise qui s'appelle Voltaire, qui a quelques kilomètres d'ici et qui reconditionne des batteries électriques. Aujourd'hui, 94% des batteries électriques qu'on utilise ici viennent de Chine. Et Voltaire reconditionne ses batteries, leur donne une deuxième vie. C'est le cas, par exemple, des batteries de nos téléphones. Souvent, ils ne fonctionnent plus. Soit on les met au rebut, soit on les met au placard. Et donc, Voltaire utilise, reconditionne et donne une deuxième vie à ses batteries. Et donc, c'est de l'emploi, de la création d'emplois et évidemment une sortie de nos dépendances vis-à-vis de la Chine. C'est un tournant qu'il faut engager maintenant. Les États-Unis et la Chine ne nous attendent pas. Donc, engageons ce tournant de l'industrie verte.
Raphaël Glucksmann pour la liste socialiste Place Publique.
Non, je voudrais reprendre les propos qui ont été donnés au début. C'est un impératif, ça se passera à l'échelle européenne, et c'est aussi une opportunité historique. C'est-à-dire que si on croit dans la science, la révolution écologique, la révolution énergétique, c'est pas une utopie, c'est pas une option, c'est un impératif, mais aussi une opportunité historique. Parce que moi, je fais dater ce sentiment de déclin des sociétés européennes au premier choc pétrolier, quand on a soudainement découvert que notre dépendance à l'égard des énergies fossiles permettait à des pétromonarchies d'avoir un impact direct sur notre vie quotidienne. Et la libération vis-à-vis des énergies fossiles, c'est aussi la redécouverte pour le continent européen de la souveraineté et de la liberté. Et donc je pense que ce n'est pas simplement un impératif, c'est aussi le moyen de redevenir puissant. Et c'est pour ça que toute notre campagne, tout notre projet est axé autour de ce concept qui est un peu étrange, qui est un concept qui allie les termes de puissance et d'écologie, la puissance écologique européenne.
Manon Aubry pour LFI.
Merci. Bonjour. C'est pas très pratique ce truc où il faut. Ça nous oblige à être rapide. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, mille merci pour cette invitation. Et peut-être pour rebondir sur l'introduction, si on est déjà un petit nombre dans cette salle à être convaincu qu'il faut sortir des énergies fossiles, la question c'est s'en donner les moyens. Et je vais peut-être donner une chose qui sera en filigrane de tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui et de nos objectifs qu'on doit se fixer. C'est comment collectivement on crée un contre-lobby citoyen. Parce que l'expérience qui est la nôtre au Parlement européen, c'est que en moyenne vous avez 70 lobbyistes par député européen. Et parmi ces 70 lobbyistes, au premier chef desquels vous avez les lobbyistes des énergies fossiles. Ils sont en train d'essayer d'entretenir un modèle qui nous court collectivement à notre perte. On aura l'occasion de revenir dans le détail sur comment on le fait. Et pour conclure, l'enjeu peut-être aujourd'hui, c'est comment collectivement on crée un contre-lobby citoyen et on est nombreux à se mobiliser le 9 juin pour avoir plus de force dans les urnes que l'argent que eux ils investissent pour maintenir leur modèle qui court à sa perte.
Marie Toussaint pour Les Verts.
Merci beaucoup. Je veux d'abord remercier le Shift, les Shifters, Jean-Marc Jancovici, les organisateurs, pas seulement pour la conférence d'aujourd'hui, mais pour tout le travail absolument précieux et crucial qui a été fourni toutes ces dernières années sur des enjeux majeurs qui sont les questions énergétiques, les questions climatiques. Vous remercier pour la préoccupation que vous avez autour de cet enjeu, mais aussi autour de l'enjeu de la justice. Et je veux dire qu'évidemment, l'Europe est l'échelle qui légifère pour le climat. Mais c'est aussi l'endroit où, sur un défi planétaire, eh bien, nous pouvons avoir un vrai levier. Donc l'Europe est le centre, le cœur du réacteur, la bonne échelle pour mener ces combats. Il ne s'agit pas seulement de la décarbonation. Nous dépassons 6 des 9 limites planétaires au niveau européen et si nous voulions assurer l'équité au niveau mondial, eh bien nous devrions aller encore plus loin. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, notre objectif, il est où ? Notre objectif, il est de transformer l'économie pour passer d'une économie qui détruit à une économie qui répare, réencastrer l'économie dans ses limites planétaires et respecter aussi un plancher social. Vous le connaissez certainement, c'est le donut, c'est vers cette orientation qu'il faut aller et qu'il faut transformer l'Europe.
Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement National.
Merci, bonsoir à tous. Merci pour l'organisation de ce débat. Écoutez, cette élection européenne, c'est aussi une nécessité de faire un bilan, et un bilan pour que vous fassiez un choix éclairé sur ce qu'est la véritable écologie et la véritable capacité qu'on a à relever le défi de la transition. Le premier bilan, c'est l'absurdité, l'impasse d'avoir opposé les questions sociales et l'écologie. Aujourd'hui, on a fait croire au peuple que le peuple était responsable du modèle qui détruit aujourd'hui la planète, alors que le peuple n'a jamais été responsable de ce modèle. Et aujourd'hui, on veut appauvrir le peuple en croyant résoudre la crise écologique, et on voit bien que ce système ne fonctionne pas, et que tous ceux qui ont fait ce choix sont en train d'abandonner les promesses irresponsables qu'ils ont faites, ce qui met les classes sociales les plus populaires dans la difficulté, et est en train de s'aborder la transition écologique. Le deuxième défi, c'est de cesser les mensonges technologiques. Nous sommes dans des impasses technologiques dues à des mauvaises informations et aussi à la désinformation. Les fameuses énergies renouvelables n'en sont pas, sont des énergies intermittentes et elles n'assurent pas la possibilité de décarboner. Donc cessons d'opposer la question sociale et la question écologique et mettons fin aussi à la croyance qu'on peut à la fois allier la transition écologique et la mondialisation sauvage qu'incarne l'Union européenne ultralibérale qui pense qu'on peut faire de l'écologie en s'ouvrant aux quatre voies du monde.
François-Xavier Bellamy pour Les Républicains.
Merci infiniment, mais je voudrais moi aussi vous remercier pour l'organisation de ce débat, remercier les shifters, remercier Jean-Marc Jancovici, aussi pour tout le travail que vous avez fait au cours de ces dernières années pour mettre les faits, la science, la rationalité au cœur de ces questions environnementales, parce que c'est comme ça, je crois, qu'on s'en sortira. Moi, j'ai un petit désaccord avec les termes du débat d'aujourd'hui et peut-être c'est aussi la myopie européenne des dernières années qui fait que nous interrogeons en effet aujourd'hui la manière dont le pacte vert se déploie. C'est que le défi environnemental, il est décisif. Le défi climatique, c'est un enjeu de survie. On a parfois accusé la droite d'être trop conservatrice, mais moi, je crois que l'écologie, c'est un enjeu de conservation et de transmission du monde aux générations qui viendront. Et en même temps, il faut dire cette chose fondamentale, c'est que le défi environnemental est global et que ce n'est pas seulement en arrivant à zéro émission que l'Europe va réussir à sortir le monde de la crise dans laquelle il se trouve. La vraie situation dans laquelle nous sommes, c'est qu'aujourd'hui, personne ne l'a dit, mais en réalité, les deux tiers des émissions mondiales sont faites par 10 pays, dont un seul est européen, l'Allemagne, qui arrive en queue de peloton. La Chine, c'est 33% des émissions mondiales. Donc l'Europe, qui est à 7% des émissions mondiales, juste derrière l'Inde, pourrait très bien arriver à zéro émission en choisissant de détruire son économie. Elle n'aurait pas pour autant sauvé la planète. Et je crois que ce sera un des enjeux majeurs de la rationalité retrouvée sur ces enjeux écologiques qu'on va travailler tout au long de ce débat.
Merci François-Xavier Bellamy. Désolé de vous couper. Merci d'avoir joué le jeu pour ce tour de chauffe. On va passer au premier thème. On a choisi un thème extrêmement concret, celui des voitures et la fin des véhicules à combustion thermique en 2035. On a voulu se pencher sur le rôle en fait des normes et des contraintes pour lutter contre le règlement climatique et sur cet exemple extrêmement concret. Pourquoi ? Parce que c'est symbolique. Dans une dizaine d'années, les nouveaux véhicules qui arriveront sur nos routes ne seront plus que des véhicules électriques ou à hydrogène. Et parce que c'est ambitieux. Aujourd'hui, il y a peu de véhicules électriques sur les routes. Ça suppose de construire des infrastructures de recharge. Ça suppose de reconvertir l'industrie européenne de l'automobile. Et d'ailleurs, les Allemands sont assez réticents puisque le président du parti du parti PPE, qui est de droite et qui est allemand, a déjà annoncé vouloir revenir sur cette mesure adoptée par l'Union européenne. L'Allemagne a obtenu une clause de révision en 2026. D'ailleurs, les Allemands ne sont pas les seuls à mettre le holà quand ça les arrange. Je vous rappellerai la citation de notre président de la République en 2023 qui disait qu'il fallait une pause réglementaire, en gros, pour protéger les industriels. Bref, la fin du moteur à combustion est un modèle, en tout cas un levier important pour baisser les émissions. Les voitures et les camionnettes, ça représente 15% des émissions de CO2 au niveau global. Alors là, on a une petite infographie derrière moi qui montre que vous allez voir à chaque fois en haut à droite, on a un récapitulatif des votes. Ce n'est pas pour en discuter ici, c'est juste pour vous montrer comment les différentes délégations se sont positionnées au Parlement européen. En l'occurrence, l'interdiction a été annoncée par la Commission européenne en 2021. Elle a été adoptée par le Parlement européen en 2023. Lorsque c'est rouge, les délégations ont globalement voté contre. Lorsque c'est vert, elles ont voté pour. Vous avez compris. Quand il y a un point d'interrogation, c'est qu'il y a eu abstention. Bref, la question pour vous est assez simple. Pour ou contre l'interdiction des véhicules thermiques d'ici à 2035, vous avez 2 minutes 30 et le tirage au sort a voulu que ce soit vous, Manon Aubry, qui preniez la parole en premier.
La première question que vous avez posée dans le débat, et vous avez eu raison, c'est cette phrase d'Emmanuel Macron. Une pause sur les normes environnementales au niveau européen. Mais le réchauffement climatique, il est en pause, lui ? Les catastrophes climatiques qui se multiplient, elles sont en pause ? Et je veux le dire avec beaucoup de force, parce que ce discours, précisément, c'est celui qu'on a entendu dans l'hémicycle, après qu'Emmanuel Macron l'ait déclaré, repris par les députés de droite et d'extrême droite, qui, reprenant les propos du président de la République, ont appelé à cette pause à l'échelon européen. Donc non seulement il ne faut pas une pause, mais il faut davantage d'ambition. La question, en revanche, qui est posée par l'interdiction des voitures thermiques, des voitures à moteur thermique pour 2035, c'est l'acceptabilité, c'est qui paye. Évidemment que on sait le poids et la pollution des voitures à moteur thermique. 250 000 personnes meurent chaque année à cause de la pollution de l'air. On sait aussi que la France viole le droit européen en la matière et a été rappelée à l'ordre par l'Union européenne, ne respecte pas les normes en matière de pollution de l'air. Mais il n'en demeure pas moins que si l'on doit arriver vers cet objectif de la fin des voitures à moteur thermique, il reste la question des alternatives et de qui paye. Qui paye d'abord, puisque des voitures électriques sont, comme vous le savez, beaucoup plus chères, et que produire des voitures électriques, là aussi à moteur électrique, là aussi a un impact en matière d'utilisation des métaux, puisqu'il en faut 6 fois plus. Donc la question qui est posée en filigrane, à la fois du coût financier, mais aussi de l'impact de produire des voitures à moteur électrique, c'est évidemment les alternatives. Et c'est là où le bât blesse, à mon sens. Et si je défends toujours cette mesure aujourd'hui, je regrette qu'il n'y ait pas d'alternative en matière de transport. Qu'a fait l'Union européenne pour développer massivement les transports publics? Ils font tout l'inverse, ils privatisent. Ils privatisent nos lignes de chemin de fer, ils privatisent nos lignes de transport de la SNCF, ils privatisent aussi le transport de marchandises qui a un impact colossal. Et la deuxième et la dernière question qui est posée pour l'acceptabilité, c'est comment vous allez dire aux gens qui ont des vieilles voitures, qui n'ont pas les moyens d'en changer, vous avez le droit, mais des SUV électriques, à moteur électrique, eux ont le droit. Et c'est pour ça qu'une des propositions que je formulerai, c'est de limiter la taille, le poids et les dimensions des SUV. Ça vaut aussi pour les ZFE, dont on a tous constaté que l'acceptation sociale est extrêmement difficile. Et l'enjeu, c'est de ne pas pénaliser les plus pauvres, mais faire payer ceux qui, en premier lieu, polluent le plus.
Raphaël Glucksmann, vous êtes le deuxième sur la liste. Vous avez 2 minutes 30. Ah, il faut appuyer en même temps que vous parlez. Ce n'est pas hyper pratique. C'est la sobriété.
Non. Donc, pour répondre directement à la question, oui, nous continuons à soutenir cette mesure. Et oui, il y a un problème de manque d'investissement pour la rendre acceptable. On a mentionné au début à quel point cette élection était importante. Et je pense que la relation au pacte vert est un élément central dans cette élection. Le premier enjeu de cette élection, c'est d'abord de savoir quelle sera la force politique dominante du Parlement européen. Et le match se joue entre les sociaux-démocrates et les conservateurs du Parti populaire européen. Les conservateurs du Parti populaire européen ont fait du Green Deal leur bouc émissaire et du détricotage des normes environnementales un objectif. Eh bien, nous allons défendre ces normes. Mais nous allons faire plus que défendre simplement ces normes. Pour les rendre acceptables, ces normes, il va falloir des investissements massifs, un accompagnement massif. Vous savez, aujourd'hui, accéder à la possibilité d'acheter une voiture électrique, c'est un an de salaire. C'est totalement injouable sans les aides. Et donc, il faut des plans. Il faut passer à l'étape 2, c'est-à-dire la planification, l'investissement qui rendent la transition possible et juste. Mais nous refusons le concept de pause réglementaire. Nous refusons l'idée que, on devrait détricoter les normes qui ont été péniblement obtenues lors de ce mandat. Et nous pensons au contraire qu'il y a d'autres règles à adopter, et notamment la règle sur le poids des véhicules. Mais au-delà de cela, il faut impérativement développer les transports publics. L'Europe du train que l'on veut, ce n'est pas simplement l'Europe qui relie les capitales européennes. C'est une Europe qui permette d'investir massivement dans les trains régionaux. Et je crois que nous avons aujourd'hui un défi immense. Les États-Unis et la Chine, investissent massivement. Et nous, en Europe, nous nous limitons à l'étape des normes. Si nous ne mettons pas en place ces investissements, nous aurons une insurrection contre les normes et nous aurons raté la transition écologique.
Merci Raphaël Glucksmann. Je donne la parole à Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement national.
Avant de répondre à la question elle-même, cette question des voitures représente un peu ce que le nucléaire a malheureusement représenté pendant 30 ans dans le débat public. C'est qu'après avoir fait croire que le principal sujet écologique était le nucléaire dans l'ensemble des élections, maintenant on fait croire que c'est la voiture individuelle. Si on prend en compte l'ensemble des émissions carbone, 50% de notre empreinte carbone, ce sont les importations. Et donc les voitures individuelles ne représentent que 3,5% de nos importations. Et on ne discute désormais plus que de cela, alors que c'est évidemment la chose la plus difficile à faire. On ne parle jamais de la démondialisation, du fait de ralentir ces chaînes de valeur réparties sur le monde entier, qui sont la cause principale du péril écologique, et que personne, à part le Rassemblement national, ne semble vouloir interroger, puisque ça met en cause les vrais lobbies, les vraies puissances de l'argent, et qu'il est bien plus facile de culpabiliser la grand-mère qui va chercher manger son pain avec sa vieille 206 que d'interroger visiblement la mondialisation. La deuxième chose, c'est que cet objectif est déjà mort. L'ensemble des industriels ont déjà dit qu'il n'était pas réalisable. Un certain nombre de pays à travers l'Europe ont déjà dit qu'il n'était pas réalisable. Et donc, il sera abandonné puisqu'il n'est pas techniquement réalisable et il est mal pensé. Un certain nombre d'auditions au Sénat français avec les principaux PDG de l'industrie automobile ont montré qu'ils n'avaient même pas été auditionnés pour savoir la faisabilité technique de cet objectif. Donc on est dans l'enfumage des citoyens, on se donne bonne conscience avec des objectifs et on transfère la responsabilité sur les ruraux en particulier. Un autre exemple, c'est les fameuses taxations sur le carburant. Pendant 30 ans, on vous a fait croire que taxer le carburant allait permettre le changement environnemental. Eh bien, 30 ans plus tard, on se rend compte qu'il n'y a eu aucune élasticité de la consommation. C'est ce qu'en économie on dit, que quand le prix augmente, alors la consommation change. Eh bien, pas du tout. En fait, ça a juste été une façon de tondre les automobilistes et qu'il n'y a pas eu de baisse sensible de la consommation de carburant à travers l'Europe, en dehors de la baisse du niveau de vie. Donc la question n'est pas de savoir s'il faut interdire la voiture thermique, c'est comment on fait pour avoir des véhicules propres. Donc il faut enfin prendre les choses de manière rationnelle, techniquement, comment on peut atteindre cet objectif? Quel choix de société on fait sur la taille, sur le poids des véhicules? Qu'est-ce qu'on met comme ordre de décarbonation? Avant de parler d'empêcher les ruraux de se balader, il faut d'abord, une fois de plus on le verra dans un autre thème, parler de la décarbonisation de l'industrie, une fois encore démondialisée. Ensuite, penser au transport de marchandises. Une fois que toutes ces étapes rationnelles seront pensées, planifiées et construites, on pourra interroger la voiture individuelle. Mais en faisant le contraire, on fait une erreur qui non seulement sera une impasse technique, et je peux vous dire que dans 5 ans, on se réunira pour savoir pourquoi, si les Français font un mauvais choix électoral, ils ont échoué à assurer une production de voitures propres sur le continent.
Merci, Monsieur Tanguy. Je donne la parole à Valérie Ayé.
Merci de poser cette question qui est assez symptomatique des clivages qu'il y a au sein du Parlement européen ou qui se sont construits au fur et à mesure du mandat. Entre l'extrême droite et la droite qui assument un certain climato-scepticisme et puis une certaine gauche, à ma gauche, qui donne des leçons d'écologie et d'engagement en matière environnementale et qui n'a pas voté la loi climat. C'est quoi la loi climat? C'est le premier acte de l'engagement dans la transition environnementale. C'est l'objectif de neutralité climatique d'ici à 2050. À ma gauche, mes collègues ne l'ont pas voté. Je leur demande encore pourquoi. Point de précision, je pense, qui est importante, puisque c'est vraiment la première étape avant l'engagement dans tout ce pacte vert qu'on a construit. Pour répondre à votre question précisément sur est-ce qu'il faut ou pas assumer cette décision de la fin de la vente des véhicules thermiques d'ici à 2035, oui, oui et oui. Ça fait partie des éléments importants du pacte vert. C'est un impératif écologique pour la planète, c'est un impératif sanitaire, puisque 50 000 décès par an sont causés par la pollution. Et aussi, c'est un impératif économique, puisqu'un plein d'une voiture, avec une voiture électrique est beaucoup moins cher qu'un plein avec une voiture à essence. Maintenant, c'est une révolution industrielle et comportementale qu'il faut engager, évidemment. Pour ne laisser personne au bord de la route, c'est ce qu'on a fait avec le leasing à 100 euros par mois. C'est ce qu'on fait en accélérant le déploiement des bornes partout sur les territoires. Ce sont véritablement les conditions sine qua non pour permettre à chacun de pouvoir disposer d'un véhicule électrique. Et un point de précision, les véhicules thermiques que pourront continuer d'être vendus sur le marché de l'occasion. Et donc, on pourra accompagner sur la durée, évidemment, l'ensemble des Français qui pourront bénéficier d'une voiture à un prix abordable. L'enjeu, c'est la révolution industrielle, c'est le fait de pouvoir produire chez nous, en Europe, en France, notamment dans le Nord, dans le Dunkerquois, des voitures électriques pour ne pas se laisser inonder par les voitures électriques chinoises, parce que les États-Unis et la Chine ont déjà engagé ce tournant. Il faut qu'on assume un leadership européen en la matière.
Merci. Je donne la parole maintenant. La parole.
Merci beaucoup. Ça va me permettre de répondre à la question de pourquoi nous n'avons pas, et nous avons été plusieurs, à ne pas voter la loi climat. Eh bien, tout simplement parce que nous avons une exigence à l'égard de la transformation écologique. Un haut niveau d'ambition basé sur la science. Or, la loi climat européenne n'est pas à la hauteur de ce que nous demandent les scientifiques pour tenir quoi? Eh bien, pour tenir l'accord de Paris. Deux, pas de plan de transformation industrielle. Contrairement à ce qu'on vient d'entendre, le pacte vert n'a pas été financé et nous avons besoin de ces investissements. Troisièmement, contrairement à ce qu'on vient d'entendre là encore, pas de jambes sociales, pas d'accompagnement social, pas de politique visant à réduire les inégalités. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, l'économie est la mère de toutes les batailles. Je vous ai parlé aussi de l'économie du donut. J'aimerais préciser ce que c'est pour celles et ceux qui ne le savent pas encore. Le donut, c'est une théorie économique élaborée par une dame qui s'appelle Kate Raworth et qui dit quoi ? Qui dit qu'il y a un plafond environnemental qui est constitué par ces fameuses limites planétaires, le climat, le CO2, mais aussi la biodiversité, les différents polluants et produits toxiques, et puis un plancher, qui est un plancher social, qui sont les droits humains et sociaux en deçà desquels on ne peut pas aller. Et c'est ce que je vous propose quand je vous dis notre responsabilité aujourd'hui, c'est rapidement, le plus vite possible pour faire face à l'urgence, de reprendre notre économie et de l'encastrer entre le plancher et le plafond de ce donut. Concernant la question sur les voitures thermiques, en fait, c'est la même question dans tous les secteurs industriels. À chaque fois qu'on va changer des normes pour respecter, pour tenir cette protection de l'environnement qui est notre responsabilité, eh bien, il faut fixer des objectifs aux acteurs, aux entreprises, aux acteurs économiques. Qu'est-ce qui s'est passé en Grande-Bretagne ? Eh bien, la Grande-Bretagne avait choisi de sortir des voitures thermiques en 2030. Et il y a quelques mois, Rishi Sunak a décidé de but en blanc de repousser cette date à 2035. Que s'est-il passé ? Ola Haro de toute l'industrie automobile, en particulier Ford, qui dit « mais attention, nous avons besoin d'une visibilité ». Et donc notre enjeu, c'est un, d'avoir une visibilité sur les politiques que nous mettons en place pour permettre aux acteurs économiques d'atteindre ces objectifs. Deuxièmement, la cohérence des politiques publiques. Vous ne le savez peut-être pas, mais que ce soit la France ou l'Europe, nous avons investi sur les 20 dernières années 2 fois plus dans la route que dans le rail. Et donc évidemment, il faut inverser cette tendance. Et c'est pour cela que je fais mienne les propositions du Shift, en particulier concernant la construction de voitures neuves. Oui, il faut légiférer sur le poids de la voiture, le poids des batteries. Oui, il faut une analyse des produits et de leur cycle de vie et de leur empreinte carbone et matière. Deuxièmement, oui, on a besoin d'investissements. Nous les avons chiffrés avec les écologistes. Pour atteindre 99% de la décarbonation du secteur automobile, nous avons besoin de 72 milliards d'euros par an, ce que empêche de faire le pacte de stabilité budgétaire. Et je terminerai en disant que je vous parlais de jambes sociales. Nous avons aussi besoin d'un pacte pour l'emploi. Parce qu'évidemment, la transformation écologique aura des impacts sur l'emploi. Nous devons de garantir une assurance chômage, salarié, formation dans cette transformation.
Merci Madame Toussaint. François-Xavier Bellamy, à vous la parole.
Merci beaucoup. Moi, j'ai voté contre, comme ma délégation, le 100% véhicule électrique en 2035 parce que j'ai un problème de méthode et de résultat. D'abord, sur la méthode, je crois que le rôle des parlementaires, le rôle du politique, c'est de fixer un cap, pas de définir des moyens. Et cette proposition, elle rompait avec la neutralité technologique. Nous croyons que nous devons dire ce que nous attendons de l'industrie en matière de décarbonation et ensuite la laisser chercher pour atteindre des résultats. En choisissant le tout électrique, en réalité, on a fait une immense erreur et il faudra la corriger. Une immense erreur parce que si on regarde correctement l'analyse du cycle de vie, on voit que oui, sur le véhicule de proximité, il y a évidemment une prime à la mobilité électrique. Mais sur le véhicule qui fait des longues distances, en réalité, si vous regardez la totalité de la vie d'un véhicule, avec l'activité d'extraction de matériaux que représente la fabrication des batteries importantes qui font des trajets routiers, en fait, vous arrivez à des émissions qui sont équivalentes. Je parle uniquement des émissions parce que je sais que c'est ce qui intéresse le Shift, mais on pourrait parler aussi de la biodiversité, on pourrait parler de beaucoup d'autres critères qui font que d'un point de vue environnemental, le 100% électrique est en fait une aberration. En faisant ça, on a privé l'industrie de continuer à chercher la manière de décarboner ses moteurs thermiques, de chercher d'autres options technologiques. Et on a figé le continent européen dans ce qui va bientôt ressembler à Cuba, parce que j'entends Valérie Hayet qui dit « Oui, on pourra toujours vendre des véhicules thermiques d'occasion. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui se passe déjà ?» En fait, les gens ne changent pas leurs voitures. Et donc, plutôt que d'acheter des voitures neuves qui seraient moins polluantes, ils gardent des moteurs très anciens, des véhicules hors d'âge qui émettent beaucoup plus. Et eux, pour le coup, pourront continuer de circuler. On verra une mobilité à 2 vitesses avec l'impact social désastreux que ça va causer, mais aussi, je le redis, avec l'impact environnemental. Pour le reste, ce choix, cette option politique, en fait, elle a consisté à nous mettre dans la main de la Chine. On s'est donné comme ligne de conduite le sujet technologique sur lequel la Chine avait 10 ans d'avance sur nous. Et aujourd'hui, la Chine produit, j'étais chez Voltaire moi aussi tout à l'heure, chère Valérie, la Chine produit, malgré le retard qu'on essaye de compenser, l'essentiel des batteries électriques que nous importons pour fabriquer nos voitures. Et ça, c'est un choix géopolitique extrêmement dangereux, mais c'est aussi une catastrophe climatique. Parce que, je le répète, c'est notre responsabilité. Quand je disais tout à l'heure que la Chine, c'est à elle toute seule un tiers des émissions mondiales, je ne veux pas accuser la Chine. C'est nous qui sommes responsables par nos importations de ce mix très carboné qui aujourd'hui est un désastre. Et donc le vrai sujet pour nous, c'est comment on arrive à faire en sorte d'assumer une transition qui produise réellement des effets positifs pour le climat. Et ça suppose, en effet, de changer complètement d'approche sur le marché européen. Et vous disiez, Monsieur Tanguy, vous voulez sortir de la mondialisation sauvage. Moi, je regrette beaucoup, du coup, que les élus du Rassemblement national, quand nous avons porté le projet du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui est la première manière de pousser le reste du monde à la décarbonation, que le Rassemblement national ait refusé de voter ce texte qui était pourtant décisif.
Merci.
Il y a une cohérence dans nos choix. Ce qui compte, c'est l'efficacité.
Merci, monsieur Bellamy. Alors, Jean-Marc Jancovici, qu'en pensez-vous? L'Europe, Cuba sans le soleil, crise géopolitique, voilà, où est-ce qu'on en est? Quelles sont vos propositions? Mais vous n'avez qu'une minute, malheureusement.
J'ai qu'une minute?
Une.
J'ai déjà plus que 55 secondes. Alors, je ne vais surtout pas distribuer les bons et les mauvais points, parce qu'il me faudrait une demi-heure pour ça, parce que je suis bavard. Donc, je vais simplement vous rappeler, après que les copies aient été rendues, quel était le cadre pour nous des copies. Voilà. Beaucoup plus drôle dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qui n'est pas négociable du point de vue du Shift Project? C'est le fait que l'approvisionnement pétrolier européen va être divisé par n'importe quoi entre 2 et 20 d'ici à 2050. Donc, de toute façon, il va falloir trouver une solution pour que les gilets jaunes puissent rouler dans un monde dans lequel il va y avoir considérablement moins de pétrole. Et au Shift Project, nous avons envie que les gens qui ont besoin d'avoir accès à la mobilité aient accès à la mobilité. D'accord? Donc, il ne s'agit pas de dire on va prendre une mesure. Voilà. Nous avons également envie que la production des engins de transport qui seront ceux qu'ils seront soit pour la majeure partie possible effectuée en Europe. D'accord? Donc nous voulons également ça, ça fait partie des choses que nous souhaitons. Quand on regarde la mobilité des individus, on a envie de la séparer en deux morceaux, c'est la mobilité longue distance et la mobilité du quotidien. La mobilité du quotidien aujourd'hui, c'est les deux tiers des kilomètres à peu près, c'est travail, courses, enfants, etc., un peu loisirs de proximité. Et ça, c'est essentiellement de la voiture. La mobilité longue distance, c'est essentiellement des loisirs. Et ça, ça peut basculer beaucoup plus facilement sur le train. Et sur la mobilité du quotidien, je termine. Les propositions du Shift Project sont de mélanger de la petite voiture électrique, de la mobilité électrique légère, vélo, etc., des modes actifs et des transports en commun dans lesquels il faudra réserver une large place au bus, qui est le seul économiquement rentable dans les zones périurbaines dans lesquelles les modes lourds ne sont pas rentables.
Deuxième séquence, souveraineté énergétique et mix énergétique. Quelle place pour les ENR, le fossile, le nucléaire? On va parler de souveraineté, un terme qui est devenu transpartisan ces dernières années. L'Europe était dépendante du gaz russe pour s'approvisionner. Elle est désormais dépendante du gaz naturel liquéfié des pays du Golfe, des États-Unis et encore un peu du GNL russe. Elle importe aussi 10% du pétrole mondial, produit très peu d'énergie fossile et dépend massivement des producteurs et transformateurs d'uranium pour son nucléaire. Vous devez avoir normalement voilà, quelques informations ici qui rappellent les grandes données. Pour réduire cette dépendance énergétique à l'égard du reste du monde et réduire les émissions, le Green Deal prévoit d'imposer plus de renouvelables dans le mix européen, de l'éolien, du solaire, du géothermique, du biogaz. L'objectif est d'en avoir 42,5% en 2030, c'est-à-dire demain, hein, dans un secteur où les investissements sont très lourds et à très long terme. Je rappelle que la France refuse cet objectif en arguant que son énergie nucléaire est-elle aussi décarbonée? L'Union européenne reviendra aussi fatalement sur la question de la taxation de l'énergie. Aujourd'hui, les taux réduits et les exonérations sur les énergies fossiles sont monnaie courante en Europe, comme vous le savez, ce qui encourage évidemment leur consommation. D'où notre question. Faut-il se passer des énergies fossiles pour assurer la souveraineté de l'Europe? Avec quel arbitrage entre renouvelables et nucléaires? C'est Valérie Ayer qui commence sur ce thème.
Merci. Sans ambiguïté, oui, il faut se passer des énergies fossiles. On a vu dans notre histoire que les principaux chocs économiques qu'on a subis sont liés aux énergies fossiles. Le choc pétrolier 1974, la guerre en Ukraine. Et si on va regarder du côté de l'Allemagne, par exemple, l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire. Elle s'est mise, et globalement, on s'est mis dans les mains de la Russie, d'un point de vue énergétique. L'Allemagne en particulier a réouvert des mines de charbon. Et on a vécu cette crise énergétique du fait de mauvais choix. Cette crise, elle nous a frappés tous. Là, je donne l'exemple allemand qui a été très marquant, mais elle nous a frappés tous, européens. En France, on a pu, grâce à des dispositifs et grâce à notre mix énergétique, être un peu plus protégés que d'autres pays en Union européenne. Et le nucléaire a été un élément de force pour nous, en France, dans cette crise qu'on a connue. On a réussi, au niveau du Parlement européen, à pousser pour que le nucléaire soit reconnu comme une énergie de transition, et il faut qu'on puisse accélérer encore davantage sur le nucléaire, puisque c'est une énergie qui est produite, en l'occurrence en France, mais en Europe, qui est décarbonée et qui nous permet de maîtriser les prix. Donc c'est bon pour les consommateurs, pour les ménages, et c'est aussi bon pour notre industrie.
clairement, le nucléaire, c'est la condition de l'indépendance de l'Union européenne, et tous ceux qui vous diront le contraire sont des écologistes du passé. Donc, soutien au nucléaire et soutien aussi la deuxième jambe, elle est importante, soutien évidemment au développement des énergies renouvelables. Pour cela, il faut mettre le paquet dans les infrastructures et dans les financements pour le nucléaire, pour les énergies renouvelables, soutenir au maximum évidemment nos industries vertes. On a beaucoup donné l'exemple, je crois que l'IRA américain n'a pas encore été évoqué ce soir, l'Inflation Reduction Act, c'est un soutien américain aux industries vertes américaines. Il faut qu'on puisse soutenir nos industries vertes pour créer de nouveau, fabriquer de nouveau des panneaux photovoltaïques, des éoliennes en Europe et être garante de notre souveraineté énergétique également.
François-Xavier Bellamy.
Ah, je n'étais pas prêt à cet ordre, mais ce n'est pas grave, je réagis.
Non, mais le tirage au sort a été injuste. Il vous a mis systématiquement en dernière ou avant-dernière position, donc.
Ah, mais voilà. C'est pas grave, je m'étais habitué à être dernier, il n'y a aucun problème.
On aurait pu. Mes excuses. Allez-y, François-Xavier.
Ok, merci beaucoup. Non, peut-être juste pour rappeler quelques éléments de base. Aujourd'hui, le vrai grand sujet pour le climat, c'est les émissions de carbone liées à la production d'électricité et à l'industrie. Et rappelons quand même que 35% de l'énergie utilisée dans le monde aujourd'hui, c'est d'abord du charbon. Le vrai défi, c'est de sortir du charbon. C'est ça le défi pour le monde et c'est le défi pour l'Europe. Rappelons qu'aujourd'hui, produire de l'électricité avec du charbon, par exemple, c'est 800 grammes de CO2 par kilowattheure. Avec du nucléaire, 11 grammes. Donc moi, j'irai encore plus loin que Valérie Ayé. Je suis très heureux de l'entendre défendre le nucléaire après que les députés macronistes se seront associés aux socialistes et aux verts pour critiquer le nucléaire par tous les moyens possibles et voter contre lui dans tous les textes importants au Parlement européen, y compris lorsque je déposais des amendements pour l'inclure dans les politiques européennes. Moi, je crois que c'est la raison qui commande aujourd'hui qu'on s'appuie sur ce qui constitue la première source de production d'électricité en Europe et la première source d'énergie décarbonée sur laquelle nous puissions compter. Ça ne veut pas dire qu'il faille faire sans les renouvelables, mais le défi pour nous, d'abord, ça doit être de pousser à la sortie du charbon. Nous proposons, avec la droite française, nous proposons avec les Républicains de taxer les centrales à charbon dans l'Union européenne. C'est le défi fondamental. Et le grand drame pour notre pays aujourd'hui, c'est que la fermeture de la centrale de Fessenheim, le sous-investissement dans notre filière nucléaire au cours des dernières années, à cause de la politique menée par les socialistes, les Verts et les macronistes, cette situation nous a mis dans une situation de vulnérabilité qui fait qu'effectivement, nous avons pris beaucoup de retard pour assumer la transition indispensable vers la production d'électricité supplémentaire dont nous aurons besoin pour réussir la décarbonation. Je termine en disant qu'aujourd'hui, le vrai grand défi, c'est de sortir le monde du charbon. C'est ça l'urgence absolue. Il faut aller vers l'urgence de la tonne de carbone évitée et le charbon, c'est le plus grand danger pour le climat aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle le levier fondamental dont nous disposons, et c'est ce qui peut redonner tout son sens au projet européen, c'est ce marché européen. 500 millions de consommateurs, la plus grande profondeur de marché. Aucun producteur mondial ne peut contourner le marché européen. Et ce marché, aujourd'hui, il est ouvert à tous les vents, alors que nous devrions en faire un levier pour contraindre tous les producteurs mondiaux à la sortie du charbon. C'est pour ça que nous avons porté le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Le grand problème, c'est qu'il est incomplet aujourd'hui, puisqu'il ne concerne pas les produits manufacturés. Donc il faut le compléter, ce sera le défi majeur, faire du marché européen le moyen de donner un prix à la production au charbon pour contraindre la production mondiale à se décarboner. C'est l'urgence absolue et c'est de là qu'il faut partir.
Manon Aubry, cette fois-ci.
Moi, je parle presque après Valérie Ayé et je vais peut-être faire un petit peu les sous-titres. Ce qu'a oublié de vous dire Valérie Ayé, c'est que la France a agi pour que le gaz, aux côtés du nucléaire, mais le gaz aussi soit considéré comme une énergie verte en faisant au passage une alliance avec Viktor Orban pour inclure le gaz dans la taxonomie verte. Donc, vous serez ravis d'apprendre que c'est une énergie verte. Deuxième chose, la France... Il y avait la slide juste avant, il y avait les objectifs en matière d'énergie renouvelable. La France est le seul pays de l'Union européenne qui ne tient pas ses objectifs en matière d'énergie renouvelable. Vous avez vu l'objectif de 42%? Eh bien, l'objectif pour la France à l'heure actuelle, il n'est entre guillemets que de 23% et la France n'en réalise que 20,7%. Donc la réalité, c'est que la France ne tient pas ses objectifs, comme quoi Emmanuel Macron aime bien désobéir aux normes européennes, mais personnellement, je préférerais qu'il désobéisse aux normes européennes, comme les traités de libre-échange, qui là, organisent véritablement notre vulnérabilité. Et en réalité, si on veut aujourd'hui produire ce qui est nécessaire, la question c'est où est-ce qu'on le produit ? Et on a organisé, orchestré notre vulnérabilité. Je prends juste un exemple. Pour produire des énergies renouvelables, se pose la question de où est-ce qu'elles sont produites. Et les panneaux solaires, vous en avez que 3% qui sont produites en Europe, qui sont produits en Europe. Vous avez deux usines simplement en France, une pas très loin d'ici, à côté de Nantes, et une à côté de Grenoble. Les deux sont en train de mettre la clé sous la porte. Et les deux ne sont absolument pas aidés par l'État. Vous avez General Electric qui supprime 250 emplois en Loire-Atlantique sur les énergies renouvelables. Donc qu'a fait la France, qu'a fait l'Union européenne pour aider en réalité ces filières du renouvelable ? Et je pense que si on veut être cohérent, il faut organiser les conditions de production ici en France et en Europe, en finir avec les accords de libre-échange et ne pas laisser la main au marché pour décider de tout. Et je dirais une dernière chose dans les 30 secondes qui me restent, que sur la question énergétique, il y a un impensé. Une chose que disent très clairement les scientifiques du GIEC et qui est toujours ignorée et mise de côté, et je pense à laquelle vous êtes sensible, qui est la question de la sobriété. L'Union européenne n'a rien fait pour diminuer les usages et agir en matière de sobriété. Et moi, je propose de hiérarchiser les usages. C'est pas la même chose d'utiliser l'énergie pour des panneaux publicitaires la nuit que pour construire, pour le coup, des panneaux solaires ou des pales d'éoliennes. Et c'est pas la même chose, évidemment, de produire pour nos usages les plus élémentaires du quotidien ou pour des grosses industries. Et c'est pour ça qu'en matière énergétique, il faut aussi se poser la question de la sobriété.
Nous reviendrons sur la sobriété plus tard. Jean-Philippe Tanguy.
Pour réindustrialiser, il faut déjà ne pas prendre de mesures stupides. Par exemple, la taxe dont a parlé M. Bellamy ne s'applique aujourd'hui, ou ne va s'appliquer plus précisément que sur 6 produits à faible valeur ajoutée, comme l'acier et l'aluminium. Mais si la Chine et la Turquie produisent une voiture avec l'acier et l'aluminium polluants, alors la voiture peut rentrer sur le marché européen. Donc vous voyez bien que ce genre de mesure est mensongère, trompe les électeurs, puisqu'on vous a fait croire qu'il y avait une taxe carbone aux frontières. Celle que voulait le Rassemblement national concernait tous les produits d'importation, celle qu'ont voté mes opposants, puisqu'il ne peut pas s'empêcher d'avoir un raisonnement sans nous mentionner. Ne concerne que 6 produits. La deuxième chose, c'est que le Rassemblement national est souvent accusé de ne pas s'intéresser à l'écologie. Eh bien, avec notre objectif de réindustrialisation à 15 points en 2030, Marine Le Pen était la seule candidate à avoir indiqué avec précision et justesse l'électricité, la production d'électricité, la consommation d'électricité qui était nécessaire à cette réindustrialisation. Monsieur Macron, à l'époque, s'était trompé de 50% et RTE, qui avait fait ses prévisions, il faut bien dire, maladroites, a dû réajuster sa prévision un an plus tard en reprenant les mêmes chiffres que Marine Le Pen. Pour une raison simple, c'est que nous faisons de la politique sur la réalité. Et la réalité, c'est que le nucléaire français allié à l'hydroélectrique a été la plus grande transition écologique que l'humanité ait connue. Nous avons réussi à produire 5 fois plus d'électricité sans aucune pollution émise dans l'atmosphère, ni de CO2, ni de particules polluantes. Et au lieu de nous gargariser et de partager ce succès technologique et environnemental, avec nos voisins, nous l'avons sacrifié au nom d'une idéologie complètement stupide. Quand on pense que la France peut avoir une amende parce qu'elle ne respecte pas son objectif d'énergie renouvelable, alors qu'elle a 90% d'électricité décarbonée, on est dans l'absurdité européenne. C'est-à-dire que si vous produisez 42% d'électricité renouvelable, mais qu'à côté vous avez 58% de charbon, alors vous n'avez pas d'amende. Si, comme la France, votre électricité est presque intégralement propre, vous payez une amende. Donc on est dans l'absurdité la plus totale. Nous voulons relancer la recherche nucléaire et atteindre la 4e génération le plus rapidement possible. Car même si nous voulons relancer la 3e génération parallèlement, nous ne pouvons pas remplacer, comme l'a dit M. Bellamy, l'ensemble du charbon par le nucléaire. Nous n'avons pas assez d'uranium avec les technologies de 3e génération. Il faut relancer l'acquis que nous avions avec Phoenix et Super Phoenix, qui a été saboté par la droite et la gauche et les écologistes pour des raisons politiques, alors que cela fonctionnait parfaitement bien. Et aujourd'hui, c'est la Chine, malheureusement, et la Russie, malheureusement, deux dictatures qui mènent le combat technologique sur le nucléaire et pas la France. Il faut donc se réapproprier ce chemin. Et je vous rappelle que Euratom était le 3e grand traité européen. Et il n'y a que le Rassemblement national qui veut relancer Euratom, à savoir la coopération technologique et industrielle sur le nucléaire.
Marie Toussaint.
Oui, merci. Je sais pas si je suis heureuse, si c'est le mot, mais de dire que d'entendre le Rassemblement national dire sa préoccupation pour l'écologie, voire même pour le climat. C'est vrai qu'on lit souvent, quand même, malgré tout, des tweets de votre groupe politique ou qu'on entend des propos qui remettent en cause l'existence même du dérèglement climatique, qui sont surpris de voir de la neige en Suède en hiver, ou qui nous disent que finalement les scientifiques ont tout faux. Donc c'est intéressant de vous entendre dire aujourd'hui que le dérèglement climatique existe. Oui, mais c'est important d'y répondre et de dévoiler les mensonges avec lesquels vous avancez. Bon, je reviens à la question. Je vous ai dit tout à l'heure, les objectifs de l'Union européenne en matière climatique ne sont pas suffisamment élevés. Aujourd'hui, on dit quoi ? On dit 55% de réduction d'émissions d'ici 2030. La réalité, c'est que selon les scientifiques, il faudrait que l'Union européenne vise entre 70 et 75% de réduction d'émissions d'ici 2030 et que nous atteignions la neutralité carbone ou climatique entre 2040 et 2045 si nous voulons nous donner une chance, une petite chance de tenir les objectifs fixés dans l'accord de Paris que nous étions fiers de signer chez nous, et qui ne tient pas compte de l'accélération du dérèglement climatique, de ce nouveau régime climatique dont on voit tous les jours à quel point il est imprévisible, surprenant, coûteux, coûteux en argent et coûteux en vie humaine. Et donc si on veut conduire cette politique-là, ben je vais vous dire la première des choses à faire. La première, c'est effectivement de réduire notre consommation d'énergie. Alors là encore, nous les écologistes, on est un peu sérieux quand on en vient à ces questions-là. On a fait pas mal d'études et l'objectif de réduction de la demande d'énergie, elle devrait être de 25% en 2030, de 46% en 2040 et de 55% d'énergie consommée en moins d'ici 2050. Je ne vais pas m'étaler sur toutes les mesures qu'il nous faudrait prendre, parce qu'en fait, je pense que vous pensez à certaines et puis qu'il ne me reste que 30 secondes. Mais en tout cas, notre enjeu premier, il est la réduction de la demande de la consommation d'énergie. Il est sur l'efficacité énergétique et vous savez le travail qu'on a à faire, en particulier dans les bâtiments, là où le gouvernement coupe l'argent pour avancer dans cette direction. Et puis après, il faut se poser la question du mix énergétique. Et je ne veux pas laisser cette question sous le tapis. Ben oui, nous, quand on regarde, ce qu'on voit, c'est que le nucléaire existant, il est là. Mais que la seule manière dont on peut atteindre les objectifs dont je viens de vous parler, d'ici 2040 ou 2045, c'est par les renouvelables. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous n'avons pas le temps de redéployer des infrastructures nucléaires qui mettent un temps fou à être construites avant de pouvoir atteindre ces objectifs. Alors je suis sûre que certains d'entre vous ne seront pas d'accord, mais je crois qu'en tout cas c'est important d'avoir un débat démocratique sur ces enjeux-là parce que nous visons la même direction, la protection du climat.
Raphaël Glucksmann.
Merci. En fait, dans tout débat, il faut éviter de confondre la finalité et les moyens. La finalité, c'est la décarbonation. La finalité, c'est aussi la souveraineté. Et donc la finalité, c'est de se passer des énergies fossiles. Ensuite, les moyens, c'est quel mix énergétique. Et là-dessus, on peut avoir des débats sur les moyens. Mais d'abord, il faut fixer la finalité. Et la finalité, ce n'est pas simplement un enjeu climatique, c'est aussi un enjeu géopolitique. Moi, j'ai présidé la commission spéciale sur les ingérences étrangères et je peux vous dire que si nous avons laissé nos démocraties être traitées comme des serpillères par Vladimir Poutine, c'est d'abord parce que nous avions un besoin comme des drogués de son gaz et de son pétrole. Et la même chose, pourquoi nous n'avons pas protesté contre le nettoyage ethnique au Karabakh ? Eh bien, parce que nous avions besoin du gaz de M. Aliyev. Et ça continue avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite ou avec les États-Unis d'Amérique. Et donc, on a là un enjeu majeur. Ensuite, comment on y arrive ? Et là-dessus, il faut être profondément réaliste, radicaux sur les objectifs, pragmatiques sur les moyens. Et la vérité, c'est qu'on y arrivera avec des renouvelables et du nucléaire. Le nucléaire ne pourra pas remplir les objectifs qu'on lui assigne. Selon le scénario le plus favorable au nucléaire de RTE, eh bien, en France, ce sera 50% de production d'électricité qui sera possible grâce au nucléaire. Et EDF, pour 2050 à l'échelle européenne, c'est le passage de 25% à 16%. Donc oui, il faut du nucléaire dans le mix énergétique, mais oui, il faut mettre le paquet aussi sur le développement des renouvelables. Et là-dessus, on est extrêmement en retard. Et il faut mettre le paquet sur le développement des renouvelables tout en mettant en place un protectionnisme écologique aux frontières de l'Union européenne. Parce que sinon, nos subventions vont être des subventions à l'appareil productif chinois. Et oui, j'ai été, moi, rencontrer les dirigeants de Sistovi à Carquefou. Et cette entreprise de production de panneaux photovoltaïques, qui était en plein boom, a dû mettre la clé sous la porte parce qu'elle faisait face à une concurrence chinoise qui reposait sur l'esclavage, qui reposait dans la production du polysilicium, qui reposait sur les subventions et sur les ventes à perte, et qui pouvait diviser son prix de vente par 4 en quelques semaines. Et donc, le projet cohérent, si on veut parler de souveraineté, c'est pas simplement se passer des énergies fossiles, c'est aussi rapatrier la production énergétique sur notre sol.
Sur la question donc de la souveraineté énergétique, de la répartition des énergies, Jean-Marc Jancovici, des réactions, des propositions, des affirmations,
quelques rappels un peu généraux. En France, on a très souvent focalisé le débat énergétique sur l'électricité. Je rappelle que l'essentiel de l'énergie qui nous fait vivre, c'est des combustibles fossiles, dont une partie sont utilisées chez nous et une large partie sont utilisées à l'extérieur. Un deuxième point, le pétrole, ça n'est pas que de l'énergie. À peu près 30% du pétrole en masse sert des usages qu'on appelle non énergétiques. Tous les gens qui sont dans cette salle sont assis sur du pétrole et portent du pétrole. Vous avez des fibres synthétiques absolument partout. Vos shampoings, vos détergents, tout est fabriqué avec du pétrole, y compris le train qui m'a amené jusqu'ici. Souvent, ça c'est un angle mort dans les débats énergétiques. On ne voit pas cette partie-là et on ne va pas faire des raffineries juste pour faire du bitume et du nafta et pas se servir des produits intermédiaires. Enfin voilà, il y a tout un pan sur ce que c'est vraiment que l'économie pétrolière qui échappe actuellement au débat. L'énergie, c'est la puissance des nations. L'énergie, c'est ce qui permet de faire, c'est ce qui permet de faire tourner les machines qui sont la puissance industrielle, la puissance motrice, la puissance mobile, etc. Et si on est passé historiquement des renouvelables aux combustibles fossiles, c'est qu'on avait beaucoup plus de puissance en travaillant beaucoup moins. Et si on essaye de classer les énergies décarbonées avec cet ordre-là, arrive en tête le nucléaire qui est la plus dense énergétiquement, c'est pour ça du reste que là où on s'en sert, il faut s'en protéger, c'est très dense, arrive derrière certaines renouvelables et pas d'autres, les barrages c'est plus efficace que l'éolien, etc. Et on ne peut pas avoir une règle du jeu, ça c'est ce que nous pensons aux chiffres, qui soit homogène indépendamment du contexte. Donc ça demande aussi des analyses un peu circonstanciées. Et enfin, dernier point, il y a des investissements massifs à l'aval et hors du système énergétique. Quand on électrifie, il ne faut pas penser juste à ce qu'on fait dans le système énergétique.
Merci, monsieur Jancovici. Nous passons désormais à la prochaine séquence qui porte donc sur l'aviation. Encore une fois, on a choisi un thème extrêmement concret pour vous parler des enjeux climatiques. Et pour parler de sobriété, certains étaient très pressés d'aborder ce sujet. La sobriété, c'est quoi? Certains l'appellent modération, plus connotée, frugalité. Nous, on va parler du fait que concrètement, il est impossible d'atteindre ces objectifs climatiques sans un peu de sobriété, donc de réduction dans les usages, y compris dans l'aviation. Et pourtant, le trafic aérien qui avait chuté pendant la pandémie, on s'en souvient, a rebondi quasiment au niveau de la période pré-Covid aujourd'hui. Alors, l'aviation, c'est un levier extrêmement puissant pour réduire les émissions, puisque les émissions de l'aviation civile, c'est seulement 2,5% du total des émissions de CO2, mais la majorité de ces déplacements sont faits par une minorité de personnes, en général les cadres supérieurs, qui peuvent réduire leurs émissions. À l'échelle européenne, ce secteur est couvert par un système d'échange de quotas depuis 2012. Alors concrètement, l'échange de quotas, c'est quoi? C'est un marché du carbone. C'est la clé de voûte même de l'Union européenne pour la baisse des émissions. Et ce système est pour le moment inopérant parce que ces quotas sont attribués de manière gratuite. À partir de 2026, la fin de la gratuité entre en vigueur, c'est-à-dire que les quotas vont expirer pour les vols intra-européens. Le diable est toujours dans les détails. Tous les vols au départ de l'Europe ne sont pas concernés. Bref, vous avez normalement une slide qui vous montre la position des différents candidats, des différentes délégations. Et vous voyez que le Rassemblement national a voté contre ce durcissement des règles du jeu pour l'aviation. L'Union européenne prévoyait aussi de l'instauration d'aides pour les Sustainable Aviation Fuels, donc les carburants dits durables. C'est une solution technologiquement attrayante, mais peu réaliste, puisqu'a priori, il n'y aura pas assez de ces carburants durables pour tous les usages, à la fois pour le transport lourd de marchandises, pour l'aviation, pour le maritime, etc. Bref, ces objectifs ne sont pas réalistes et les SAF ne nous sauveront pas. Donc, question simple pour les candidats ce soir. Êtes-vous favorable ou non au plafonnement du trafic aérien? Vous connaissez maintenant les règles du jeu. On garde l'ordre de passage. Monsieur Glucksmann, vous êtes le premier à passer. 2 minutes 30.
Mais quel est le rôle de la puissance publique? Le rôle de la puissance publique, c'est de fixer un cap. Or, le cap, ça doit être, à l'échelle européenne, l'investissement dans le ferroviaire. Et donc, la redistribution depuis l'aviation vers le ferroviaire. Ça suppose des investissements massifs. Et ça suppose des taxations massives sur l'aviation. Et donc, ce plan-là, c'est un plan de sobriété. En réalité, quand on investit dans le ferroviaire, on investit dans la sobriété. Et donc, oui, nous sommes favorables. Et ce que je veux dire aussi, c'est que ceux qui doivent devenir sobres, puisque j'ai vu que la sobriété n'était pas l'objet politique le plus populaire en ce moment. On parle de Amish, on parle d'écologie punitive. Mais la sobriété, c'est la redécouverte de la liberté pour l'Europe. C'est aussi le début de la justice sociale. Et ceux qui doivent devenir le plus sobres sont ceux qui sont les plus ivres. Et donc, nous, il nous semble parfaitement logique que la sobriété soit un projet de justice sociale. Mais la sobriété, ça ne se limite pas à ça. La sobriété, c'est aussi créer de nouvelles opportunités, des filières. Nous, nous sommes pour promouvoir en Europe un droit à la réparabilité et donc développer des filières sur la réparabilité. Et nous sommes aussi pour lutter contre la société de surconsommation. Nous avons mené des campagnes qui ont mobilisé des centaines de milliers de jeunes citoyens français, par exemple sur la question de Shein. Et nous voulons obtenir un plafonnement du nombre de référencements, de nouvelles références par jour. Parce que Shein, bien par exemple, c'est 7000 nouvelles références par jour. Et donc, la lutte pour la sobriété, c'est aussi la lutte contre tout ce qui encourage, qui entretient, ce qui favorise la surconsommation. Et enfin, la lutte pour la sobriété, c'est aussi, et je fais bien la distinction, entre sobriété et efficacité, mais c'est aussi tout ce qui permet l'efficacité. Et donc, ce n'est pas les avions propres que nous voulons, c'est plus de trains, et c'est aussi un transfert depuis le routier. On a des sociétés d'autoroutes qui font des milliards, et on a un sous-investissement dans le ferroviaire. Et donc, il faut faire des transferts finalement, des secteurs polluants vers les secteurs propres.
Merci, Monsieur Glucksmann. La parole est à Jean-Philippe Tanguy.
Merci. Écoutez, si nous avons voté contre, c'est que vous verrez, on se retrouvera dans 5 ans, cette mesure ne fonctionnera pas et sera abandonnée parce que nos concurrents s'en auront emparés. Je vous invite à regarder les résultats, par exemple, des lignes turques ou d'Emirates, la compagnie des Émirats Arabes Unis, qui profitent de ce genre de mesures depuis des années. Ça n'a aucun sens d'interdire chez nous des choses si nos concurrents peuvent faire l'inverse. De la même manière, quand les 8% de PIB français seront menacés par la fin du tourisme chinois, indien et américain, évidemment, ils reculeront. Donc, vous savez, on peut faire des belles promesses et vous promettre n'importe quoi aux élections. Elles ne sont jamais tenues. Et si au bout de 30 ans qu'on fait des COP, malheureusement, les traités de Kyoto, et qu'à chaque élection, ceux qui sont responsables et qui gouvernent viennent pleurnicher sur des objectifs qu'ils n'ont pas été capables de remplir, tout en accusant le Rassemblement national de je ne sais quoi, alors que nous sommes dans l'opposition, eh bien, nous continuerons malheureusement à pleurer sur l'échec de la transition écologique. Moi, je vais vous parler de la vraie sobriété. C'est celle que s'imposent aujourd'hui les Françaises et les Français, parce que les règles européennes ont fait exploser le prix de l'électricité de 70%, y compris quand cette électricité est décarbonée. C'est le prix du gaz qui a explosé de 80%, parce que ceux qui ont gouverné, à part, il faut le dire, Madame Aubry, ont tous soutenu la création de Nord Stream, y compris M. Glucksmann, M. Hollande, qui a autorisé Engie, dont l'État était actionnaire, à investir 2 milliards d'euros dans Nord Stream. Et à l'époque, on n'a pas entendu les socialistes s'en plaindre et nous ont mis dans la dépendance envers Vladimir Poutine, tout en accusant le Rassemblement national de tout et n'importe quoi. Peut-être, mais vous êtes avec le Parti Socialiste aujourd'hui, donc il faut aussi être un peu cohérent. Nous, on essaie de l'être, c'est jamais facile, je vous l'accorde. Donc, on vous parle beaucoup de l'aviation, mais c'est une distraction. On ne vous parle pas des vrais problèmes de sobriété. J'aurais pu aussi vous parler de la vraie sobriété qui vous concerne ici, dans le Maine-et-Loire, comme dans toutes les zones rurales, c'est la sobriété sur les terres agricoles, la capacité de nos villages à encore se développer, à accueillir des familles, des enfants, pour que les écoles ne ferment pas et que notre ruralité ne meure pas. Cette sobriété-là imposée, on ne vous en parle jamais, et une fois encore, pourquoi ? Car on n'ose pas affronter les lobbies qui ont pollué les terres, qui ont rendu des friches industrielles, et au lieu de dépolluer les friches industrielles pour réindustrialiser, on veut reconquérir des terres agricoles neuves au détriment de la population et au détriment des villages, et on fait croire que c'est la faute des développements des villages ruraux si Amazon a pris des terres agricoles. Donc on est une fois de plus dans la distraction de l'opinion publique, dans le refus de s'adresser aux vrais problèmes, de prendre les choses avec rationalité, et aussi il faut bien être dans la pénitence, parce que ça a été dit, c'est pas les électeurs du Rassemblement national qui prennent l'aviation. Donc moi, à la limite, je pourrais interdire les avions, ça ne me coûterait rien électoralement. Mais ceux qui vous promettent ça, c'est des gens qui essaient de se racheter une bonne conscience en votant pour ces interdictions, tout en allant en week-end à Marrakech.
Merci, Monsieur Tanguy. Loin de nous l'idée de vous distraire avec l'aviation. Marie Toussaint, à vous la parole.
Oui, merci. Bah, je vais essayer, quant à moi, de répondre à la question qui est posée, hein, qui est faut-il à un moment limiter la prise de l'avion ? Et vous savez, c'est pas une petite question, même si on rit ou on sourit, mais c'est pas une petite question parce que l'aviation, c'est pas 2,5% des émissions de gaz à effet de serre comme on l'entend régulièrement, mais c'est en réalité 5% si on prend en compte pas seulement le carbone, mais l'ensemble des gaz à effet de serre. Et c'est aussi l'un des secteurs qui explose, qu'on n'arrive pas à ralentir. Ça continue d'augmenter chaque année. Par exemple, l'année dernière, la France aurait réduit de 4,8% ses émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est hors puits carbone qui sont en train de se dégrader à toute vitesse. Mais qu'est-ce qui n'a pas réduit ? Eh bien, c'est l'avion. C'est plus 16% de vols en Europe, d'émissions de gaz à effet de serre, pardon, liées aux vols en Europe, plus 25% sur les vols domestiques en France et plus 34% si on prend les vols internationaux. C'est un secteur qui explose et qui peut nous coûter le dérèglement climatique. Et donc, il faut agir. Et c'est aussi un enjeu de justice, et la sobriété est plus un enjeu de justice. Jusqu'à 20% des Françaises et des Français ne prennent pas l'avion de leur vie. Et donc, c'est justement l'un des leviers qu'on a pour protéger le climat sans porter atteinte à la justice sociale. Alors moi, je connais la proposition du Shift, qui est celle de limiter les vols à 4 vols par vie, par personne donc, dans sa vie. Eh bien, j'admire...
Je suis obligé de faire une rectification instantanée, c'est pas une proposition du Shift.
Ah bon, d'accord. Je croyais, je l'avais pourtant entendu, j'espère que ce me sera décompté quand même.
Vous nous expliquez.
Mais en tout cas, ou une proposition de Monsieur Jancovici, ok. Très bien. Bon, vous reviendrez après, on peut enlever les 20 secondes. Bon. En tout cas, je trouve que c'est intéressant d'aspirer à ce qu'il y ait une égalité de budget carbone par tête à terme, mais qu'il faut un peu de chemin pour aller jusque-là et qu'il faut quand même que cette transition, cette transformation, elle reste désirable pour vous et pour moi. Ça veut dire, par exemple, changer le rapport au temps, parce qu'évidemment, on peut partir en week-end en avion sur 2 jours, mais si on change le rapport au temps, qu'on se laisse plus de temps, ben on peut prendre l'avion moins souvent pour partir plus longtemps et ça demande un changement de société. Mais je reviens sur la question de l'avion. Oui, on a besoin d'un budget carbone hors marché pour l'aviation et on a besoin que ce budget carbone y diminue et qu'il diminue d'au moins 30% d'ici 2030. On a besoin d'interdire les vols de moins de 4h30. On a besoin d'interdire les vols de moins de 60 passagers. On a besoin de taxer Merci. Les vols d'entreprise. Merci on a besoin... Oui, mais je sais, mais je me suis fait interrompre, donc j'aimerais continuer. Donc il faut sortir de cet avion, de cette aviation, lorsqu'elle ne sert à rien d'autre qu'à du loisir. Il faut aussi miser sur l'accompagnement des salariés de l'aviation et du secteur de l'aéronautique. Je vous l'ai dit, je vous le redirai. Cette question de l'accompagnement de l'emploi, elle est absolument cruciale et elle est au centre des propositions des écologistes.
Vous avez dépassé le temps en partie, merci. La parole à Monsieur Bellamy. Non, pardon, je me trompe. Manon Aubry, alors. Pas de problème, allez-y.
Merci beaucoup. D'abord, une toute petite précision sur notre vote sur l'ITS, donc le marché carbone pour l'aviation. On a voté pour en première lecture et on s'est abstenu en seconde lecture parce que, notamment sur la seconde lecture, il a été exclu les vols depuis et vers des pays tiers de l'Union européenne. Vous m'accorderez que c'est quand même une part très conséquente des vols qui arrivent ou qui repartent de l'Union européenne, raison pour laquelle... avec des doutes aussi plus larges sur le marché carbone qui a démontré que le marché ne marche pas. Et je ne suis pas convaincue du fait de donner un prix à la nature puisque à la fin, vous avez des entreprises qui l'achètent, surtout quand le prix est assez peu cher. J'en arrive au cœur de la question. Le cœur de la question, finalement, c'est quel mode de transport ? Et quand on regarde, de facto, aujourd'hui, l'aviation est un des modes de transport les moins chers alors qu'il est de très loin le plus polluant, qu'il est 70 fois plus polluant, par exemple, de prendre l'avion que de prendre le train. Et pourquoi il est moins cher ? Parce qu'il est moins taxé. Et donc la première mesure immédiate, si on veut décourager le fait de prendre l'avion, c'est évidemment de taxer le kérosène, mais ça me paraît une évidence. Deuxième élément, vous l'avez dit, on n'est pas tous égaux. Et tout le monde n'a pas l'habitude de prendre l'avion dans ses usages et de la même manière. Et c'est pour ça que nous reprenons la proposition d'interdire tous les vols pour lesquels il y a une alternative de moins de 4 heures en matière de transport. C'était ce qui avait été promis dans le cadre de la Convention citoyenne sur le climat et par le gouvernement français et qui a été jeté aux oubliettes. À la fin, c'est seulement 3 liaisons qui ont été supprimées. Et la dernière chose est peut-être la plus importante, c'est évidemment de développer des alternatives. Il ne s'agit pas de rester chez soi. Et pour développer des alternatives, c'est évidemment un grand développement, plan de développement du train en supprimant la TVA sur le train, mais surtout, et j'insisterai là-dessus, arrêter le démantèlement en cours du fret SNCF et de la SNCF. Du fret SNCF, vous avez en France 10% des marchandises seulement qui sont transportées sur des trains. C'est 20% en Europe, c'est moins que ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On privatise et on ferme encore plus de lignes pour avoir encore plus de camions qui transportent des marchandises. Et il faudra aussi développer non seulement des lignes à grande vitesse, et là je reprends, je crois, la proposition du chiffre, j'espère me pas tromper, qui est de tripler les lignes à grande vitesse, mais je me permets de préciser, je pense qu'il faut des lignes du quotidien. Je vous donne un exemple, la ligne entre Limoges et Angoulême qui a fermé et qu'il faut réouvrir pour que les gens n'aient pas à prendre leur voiture, mais il faut que ce soit accessible financièrement et que ça coûte moins cher.
Merci Manon Aubry. Maintenant la parole est bien à François-Xavier Bellamy.
J'ai retrouvé ma place d'avant-dernier. Mais ça me va très bien parce que je sais, Valérie, c'est un grand signe d'espoir que les derniers seront les premiers. Donc, alors peut-être pour répondre à la question, je crois qu'on fait une erreur en croyant, et c'est peut-être un point de désaccord aussi avec la manière dont le sujet est souvent traité, en croyant que l'économie et la vie des sociétés est un jeu à somme nulle, en faisant l'impasse sur la part d'innovation, de recherche, d'investissement qui est fait précisément pour la décarbonation. Marie Toussaint disait que l'aviation n'a cessé d'augmenter dans les pratiques dans notre pays, c'est vrai, mais simultanément, elle a oublié de dire que sur les 20 dernières années, le secteur aérien s'est décarboné de 25%. Et on voit bien à quel point la recherche continue aujourd'hui. Les SAF, ça n'est pas un petit sujet, vous disiez en commençant que c'était irréaliste, je ne le crois pas. Nous voyons aujourd'hui s'organiser toute une filière de production de carburants alternatifs décarbonés. Et demain, c'est-à-dire dans 10-15 ans, à l'échelle industrielle, c'est demain, nous aurons certainement des avions à hydrogène. Donc il ne faut pas raisonner comme si le jeu était fermé. La vérité, c'est qu'il faut malgré tout effectivement dissuader des voyages de pure convenance. Aujourd'hui, on a fait un choix qui consistait d'une certaine manière à subventionner le transport routier, à subventionner l'aviation par rapport au train. Les péages que payent les trains pour circuler sur nos lignes sont extrêmement élevés. Il faut investir massivement sur ce transport décarboné et j'espère qu'en cohérence avec ce qu'ils viennent de dire, nos amis de gauche soutiendront par exemple l'investissement du Lyon-Turin qui est absolument fondamental pour poursuivre ce développement. Dernier point, puisque nos amis parler de bien d'autres sujets, je voudrais quand même revenir sur le miracle qui vient de se produire sous vos yeux. Nous avons entendu tous les candidats ici, ou presque tous, Manon Aubry n'a pas prononcé le mot, qui viennent de dire que le nucléaire était nécessaire. Je peux vous dire que ça n'a pas toujours été le cas. Au tout début du mandat, on a voté un texte sur l'état d'urgence climatique. Le lendemain, les Verts proposaient, votés par la gauche et par les élus macronistes, une proposition pour fermer le plus rapidement possible toutes les centrales nucléaires en Europe. Et donc, on est devant un sujet majeur, parce que c'est la question de la rationalité qui est ici en jeu. Et moi, je veux le redire, si on veut demain faire en sorte que la plus grande partie de notre énergie soit décarbonée, qu'on produise le maximum d'électricité, qu'on produise les grands investissements d'hydrogène dont on a besoin pour demain, il faut qu'on s'appuie sur cette filière absolument. Et je ne sais pas où vous avez vu, M. Tanguy, que la droite avait été coupable dans la fermeture de Superphénix. On est devant le sénateur Stéphane Piednoir, qui est sénateur d'ici, et qui est celui qui a porté l'alerte sur la fermeture du programme Astrid par le gouvernement français. Le vrai défi pour nous, c'est d'investir dans cette filière. Je suis heureux de voir que tout le monde le reconnaît aujourd'hui. J'espère que cette conviction restera partagée aussi après les élections européennes.
Merci Monsieur Bellamy et la parole va désormais à Madame Ayer. Faut-il ou non plafonner le trafic aérien ?
Merci. Oui, il faut de la sobriété. Les Français en ont fait la démonstration de leur capacité à réduire leur consommation d'énergie au moment du pic de la crise énergétique à l'hiver 2022-2023. Vous avez réduit votre consommation, on l'a réduite. Donc oui, à la sobriété, c'est possible. On en a fait nous-mêmes la démonstration. La sobriété, c'est aussi la fin de l'obsolescence programmée qu'on a portée au Parlement européen. C'est l'économie circulaire qu'on a aussi porté au Parlement européen. C'est aussi les enjeux d'efficacité énergétique et à cet égard, la rénovation thermique des bâtiments, avec le soutien de MaPrimeRénov' notamment, est une priorité qui a été portée par notre majorité et qui a déjà des résultats concrets dont peut-être certains d'entre vous avaient bénéficié. Donc oui à la sobriété, s'agissant de l'aviation. Oui aussi à la sobriété. Cette majorité présidentielle, avec cette majorité présidentielle, on a interdit les trajets en avion lorsqu'il y avait des alternatives en train à moins de 2h30. Aucune majorité ne l'avait fait jusqu'à présent. C'est aujourd'hui une position qui a été...
S'il vous plaît, dans la salle.
Merci, monsieur, de me laisser continuer à porter mon développement. Donc, cette majorité l'a fait là où d'autres n'ont même pas tenté de le faire. Donc, oui au report modal, oui au soutien au ferroviaire. Mais on ne peut pas dire uniquement sobriété et pas d'innovation. Il faut les deux jambes. Il faut les deux jambes, sobriété et soutien à l'innovation. Soutien aux biocarburants, soutien à l'innovation pour faire de l'avion bas carbone une réalité demain. Je suis allée à Airbus, visiter Airbus hier à Nantes. Les équipes d'Airbus travaillent dessus et c'est aussi comme cela que nous allons répondre aux défis climatiques. Et le secteur de l'aviation est très engagé. Effectivement, avec ma délégation, on a soutenu l'inclusion du secteur de l'aviation dans la baisse des quotas gratuits dans le dispositif ETS. C'était une nécessité. Maintenant, oui à la sobriété, oui au report modal, mais on ne peut pas se baser uniquement sur des changements comportementaux. Il faut aussi la deuxième jambe, c'est-à-dire l'innovation, c'est-à-dire dans la confiance dans la science qui nous permettra demain de bâtir et de construire l'avion du futur.
Merci Madame Ayer. Jean-Marc Jancovici, on a envie de vous entendre. Tout le monde se réclame de vos propositions. Quelles sont-elles ?
Alors, d'abord, rappeler que l'avion dans le monde aujourd'hui, c'est 75% des usages de loisirs et 25% des usages professionnels. Ensuite, rappeler que sur les usages de loisirs, il y a une constante biologique des êtres humains qui est que quand on part pour un déplacement de loisirs, on se déplace en moyenne 4 heures. Et donc, l'avion n'est pas un concurrent de la voiture ou n'est pas un concurrent du train. C'est un mode distinct qui permet d'aller plus loin dans le même temps de déplacement. D'accord ? Donc, il ne faut pas le voir comme un mode concurrent, il faut le voir comme un mode d'accès à des choses auxquelles on n'accéderait pas si ce mode-là n'existait pas. Il y a un travail très intéressant qui a été mené par les shifters et aérodécarbo sur est-ce qu'on peut conserver le trafic actuel même avec toutes les innovations techniques qu'on peut rêver. C'est des ingénieurs de l'aéronautique qui ont fait la modélisation et la réponse est non. Donc on ne peut pas. Et les 4 vols dans une vie, en fait, c'est un calcul d'ordre de grandeur que j'ai fait à la volée au micro de Léa Salamé. Ce n'est pas une proposition, c'est juste un calcul d'ordre de grandeur. Ça n'a jamais été une proposition du Shift non plus. C'est facile, il y a un enregistrement vidéo, donc on peut le vérifier. Et c'est simplement un petit calcul d'ordre de grandeur que j'ai fait en disant, ben voilà, si l'aviation prend sa part de moins 5% d'émissions par an, comme tous les autres secteurs, à quoi est-ce qu'on arrive en 2050 en termes de répartition équitable du droit à voler ? Voilà, c'est juste ça le résultat du petit calcul. Mais la partie importante, c'est que même en étant très, très allant sur la technologie, avec l'absence, la disparition du pétrole, on ne conservera pas le trafic aérien actuel.
Quatrième et dernière séquence, l'argent, le financement de la transition avec l'exemple de la rénovation des logements. La transition énergétique, quand on la regarde de très loin, c'est d'abord un choc d'investissement colossal. Alors ça dépend de la manière dont on compte, mais à l'échelle mondiale, il faudrait dépenser près de 40 000 milliards de dollars supplémentaires d'ici à 2030. En France, un rapport publié l'an dernier par deux économistes, Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz, évaluait l'addition pour la France à 60 à 70 milliards d'euros par an, moitié public, moitié privé. Mais certains estiment que c'est vraiment une estimation à minima. Nous avons choisi de prendre un chapitre compliqué de cette transition, qui est la rénovation de logements. Compliqué parce que c'est un investissement trop lourd à financer pour la grande majorité des Français. Il s'amortit sur plus d'une génération. Il faut donc inventer de nouveaux instruments et ça urge. Une directive européenne sur la performance des bâtiments en voie d'aboutissement va pousser les États à réduire la consommation des bâtiments résidentiels de 16% d'ici 2030. Ça paraît un objectif très accessible. C'est en fait un objectif extrêmement ambitieux. Même si l'objectif paraît vague, il va falloir agir vite. Il va falloir des rénovations massives en France, dans les autres pays de l'Union aussi. Au total, pour les pays européens, l'addition dépasserait les centaines de milliards d'euros par an. Alors, quel levier proposez-vous pour financer cette transition? Faut-il creuser encore le déficit, accroître encore la dette publique en assouplissant encore le pacte budgétaire? Faut-il un emprunt européen? On a vu que c'est possible avec l'adoption du plan Next Gen EU en pleine crise sanitaire. Faut-il de nouveaux impôts, par exemple une taxe exceptionnelle sur les plus aisés? Faut-il créer de la monnaie? Vous avez chacun à nouveau 2 minutes 30 pour votre proposition, votre point de vue. On commence cette fois-ci à nouveau, c'est le sort qu'il a décidé, par Raphaël Glucksmann.
Merci. L'Institut de l'économie pour le climat a chiffré à 400 milliards les investissements supplémentaires nécessaires à l'échelle européenne. Alors bien sûr, ce n'est pas exclusivement des fonds publics, mais ça suppose des investissements publics massifs. Et nous proposons un grand plan de rénovation thermique des bâtiments à l'échelle européenne, et en particulier un plan ciblé sur les écoles. Avec l'ensemble du groupe social-démocrate, nous avons ce plan qui vise, dans les 5 prochaines années, à rénover thermiquement l'ensemble des écoles européennes. Mais tout cela coûte extrêmement cher, vous l'avez dit. Et donc la vraie question, c'est comment on finance? Qui paye? Et la première chose à faire, c'est un emprunt commun à l'échelle européenne. Ce que nous avons fait face à la pandémie, nous devons pouvoir le faire face à la perspective de l'effondrement climatique. C'est la première chose. Mais ça ne suffira pas. Ce qu'il faut aussi, c'est des ressources propres pour l'Union européenne, un budget qui soit donc financé par l'impôt. Nous avons travaillé avec notre groupe pour qu'on ait une taxe sur les super-profits depuis l'invasion de l'Ukraine. La taxe existe sur les super-profits des énergéticiens. Ce n'est pas assez, il faut l'étendre. Mais surtout, nous portons une initiative citoyenne européenne lancée avec Aurore Laluc, ma collègue députée européenne Place publique, et avec Paul Magnette, et avec des activistes écologistes. Et le but de cette initiative citoyenne européenne, c'est de taxer les plus hauts patrimoines à l'échelle du continent européen pour financer justement la transition, la rénovation thermique des bâtiments, et faire en sorte que cette transition soit juste. Le but, c'est de taxer les multimillionnaires et les milliardaires, qui aujourd'hui échappent largement à l'impôt et finissent par être moins taxés en rapport avec leur fortune, que les classes moyennes et les classes moyennes supérieures. Et donc, on a là un sujet de justice sociale. Ce n'est pas simplement aller taxer les riches. Il y a des millionnaires qui sont à l'origine même de notre initiative. Mais quand on vous dit qu'on va lancer des grands plans d'investissement et qu'on ne vous explique pas comment on les finance, eh bien, on lance des paroles en l'air. L'argent magique n'existe pas, certes, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur un continent qui taxe d'ailleurs les dividendes beaucoup moins que le travail.
Marie Toussaint.
Je vous remercie. Sur cette question du logement, j'aimerais quand même dire et souligner le fait qu'en France, nous ayons 2,4 millions de personnes qui sont aujourd'hui en attente d'un logement social. Et que nous avons des besoins en logement qui sont conséquents, environ 500 000 logements supplémentaires par an selon l'Union sociale pour l'habitat, dont 198 000 pour le logement social. Et donc, en effet, on doit parler à la fois de rénovation, mais aussi d'investissement dans le logement pour que les termes « droit au logement » se concrétisent dans notre vie quotidienne. C'est la raison pour laquelle je fais mienne, j'espère que cette fois c'est les bonnes, les propositions du Shift.
On va voir.
Sur la question de la construction sur le bâti, de la réquisition des logements et des bureaux vacants, et toute autre mesure qui nous permet de construire dans le respect des principes de zéro artificialisation, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, les puits de carbone sont absolument indispensables à être préservés. La deuxième chose, c'est qu'on a effectivement besoin d'investissements supplémentaires. Alors, ce n'est pas 400 milliards en plus, c'est 434 milliards pour être exact par an, dont un certain nombre est déjà existant. Et donc, en réalité, c'est 96 milliards en plus par an que nous avons besoin de dégager. C'est déjà suffisamment conséquent. Évidemment, ça se répartit dans les bâtiments publics, dans les bâtiments privés et dans les supports techniques et les prêts qu'on doit opérer pour cette rénovation. Cet argent, il faut le dégager. Il faut le dégager comme il faut dégager toutes les sommes dont on a besoin pour investir contre le dérèglement climatique. La seule décarbonation, sans parler de la relocalisation de l'économie, de produire en Europe ce dont on a besoin en Europe, sans parler des produits toxiques et de la nécessaire sortie des produits toxiques, la seule décarbonation en Europe, c'est 260 milliards d'euros d'argent public en plus par an. C'est là où le pacte de stabilité budgétaire, qui est aujourd'hui porté, qu'on devrait voter la semaine prochaine, par les conservateurs, avec François-Xavier Bellamy, par les libéraux et par les socialistes européens, eh bien ce pacte-là nous empêche d'investir dans la transition écologique et dans la justice sociale. Et donc la première des choses à faire, c'est de changer ces règles. Et je vais vous dire une chose, ces règles, elles ne tiennent pas compte du coût du dérèglement climatique pour notre société. Ce coût-là, pour la France, c'est à terme 260 milliards par an. Ça veut dire que la dette budgétaire dont nous parle M. Bruno Le Maire, elle n'est pas au niveau où il le dit, elle est plus grande encore si on tient compte des coûts réels du dérèglement climatique. Aujourd'hui, on a besoin d'avancer. Il y a de la mauvaise dette, mais il y a aussi une bonne dette, c'est celle qui prépare notre avenir. Et ce sont ces règles budgétaires qu'on a d'abord besoin de changer, en plus de l'ISF climatique, de la fin des subventions aux énergies fossiles, des exonérations fiscales sur l'avion, etc., etc.
Manon Aubry.
Merci beaucoup. Mon temps n'avait pas été remis à zéro. Je pense, une question essentielle que vous mettez là, celle de la rénovation thermique des logements. Il y a beaucoup de jeunes ici dans la salle. Et en France, on a 42% des jeunes qui, l'hiver, ont froid chez eux. Et j'ai honte de voir cette statistique. Et je sais que ce n'est pas simplement un enjeu climatique, c'est un enjeu social aussi de faire la rénovation thermique des logements. Et pardon, Madame Hayet, mais c'est assez culotté de venir parler ici de ma prime rénov'. Que vient faire le gouvernement d'annoncer des coupes budgétaires avec, au premier chef desquels, moins d'un milliard d'euros dans ma prime rénov' qui sert à faire la rénovation thermique des logements? Ce sont 150 000 logements en moins que vous allez rénover. C'est l'équivalent d'une ville comme Rennes. Et ça vient pas de nulle part. Ça vient en effet des nouvelles règles budgétaires et des économies que ce gouvernement veut faire à tout prix. Vous avez vu, c'est déjà 20 milliards d'euros qu'a annoncé Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. Et quelle est la première victime? C'est l'écologie. Plus de 20% des économies se font sur l'écologie. Je parle de ma prime rénov', je pourrais aussi parler du fonds vert pour les collectivités territoriales qu'on abandonne toujours pour faire la transition écologique. Je pourrais parler des infrastructures et transports où on a moins de 340 millions en moins. Bref, l'écologie est toujours la première victime. Et moi, je veux le dire très clairement, oui, ces règles budgétaires, elles sont coupables. Elles sont coupables parce que s'il y a une certitude, c'est que ce qu'on peut négocier, c'est la dette, mais pas la planète. Et ça veut dire que demain, les investissements qu'on doit faire, ils doivent être en priorité en matière écologique, et c'est le premier levier qui est le levier budgétaire. Mais on a un deuxième levier qui est évident, qui est celui des ressources propres et de ce que l'on peut dégager. On a quand même un gouvernement qui, de nouveau, fait la poche des Français et dans le même temps a fait 50 milliards d'euros de coupes budgétaires, 50 milliards d'euros, pardon, de cadeaux fiscaux ces dernières années, par an, 50 milliards d'euros. Et donc, on peut trouver les ressources. Ça passe par, une taxation sur les super-profits. Prenez les entreprises énergéticiennes, elles ont fait 30 milliards d'euros de super-profits et les super-profits, de manière générale, ont doublé depuis 2019. 2, taxation des grandes fortunes avec un ISF à l'échelon européen quand les grandes fortunes ont augmenté leur richesse de 35%. Et 3, pour donner juste une dernière exemple, une taxation sur les pratiques climaticides des ultra-riches et des objets de luxe. Pensez par exemple au yacht, c'est double emploi, vous ramenez de l'argent et en plus vous changez les usages climaticides.
Jean-Philippe Tanguy.
C'est intéressant ce sujet de la rénovation thermique parce que c'est un des rares sujets où on est tous d'accord pour dire que c'est une priorité. Donc là, on est vraiment dans les solutions techniques qui peuvent être intéressantes pour ceux qui nous écoutent. La première chose, c'est pour que ça fonctionne, et c'est là où il y a un peu une impasse entre ceux qui reprochent au gouvernement de ne pas mettre assez d'argent et le gouvernement qui n'en met pas assez, c'est qu'il faut les ouvriers et les artisans pour faire ces rénovations thermiques. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas assez d'artisans et d'ouvriers dans ces métiers-là, et donc il faut les former le plus rapidement possible. Il faut encourager nos jeunes à faire ces beaux métiers et cesser, ce qui est malheureusement encore trop le cas, de dévaloriser le métier d'Emmanuel. Le génie de main est aussi noble que le reste des études. La deuxième chose, c'est que quand vous accumulez toutes les dépenses qu'on vous promet, alors à la fois plus d'hôpitaux, plus de policiers, plus d'éducation, la transition énergétique, des panneaux solaires, etc., vous voyez bien qu'il y a une erreur dans les comptes ne sont pas bons, comme aurait dit l'autre. Et donc, il faut innover. Repenser par exemple au plan Marshall. Jamais le plan Marshall pour reconstruire l'Europe n'aurait pu être possible avec l'arme fiscale ou l'arme budgétaire seulement. Et donc le Rassemblement national propose, et je crois que nous sommes les seuls, d'utiliser l'arme monétaire. Alors vous en avez entendu parler, pour sauver l'euro après la crise de la Grèce et des dettes souveraines, nous avons fait ce qu'on appelle de l'assouplissement quantitatif, du quantitative easing. La Banque Centrale Européenne a imprimé plus de 3 000 milliards d'euros pour sauver les marchés financiers et les dettes souveraines. Cet argent n'a servi malheureusement à rien. Il n'a pas été investi dans l'économie réelle, il n'a pas été investi dans la réindustrialisation, il n'a pas été investi dans les services publics. Bref, il n'a servi à rien à part sauver les marchés financiers. Mais nous proposons une deuxième phase d'assouplissement quantitatif, d'utiliser la Banque Centrale Européenne pour financer cette transition sur 10, 20, 30, 40, 50 ans selon la durée des projets. Et donc, proposer cet argent pour faire la transition la rénovation thermique, par exemple, mais aussi financer les centrales nucléaires ou le train dont on vous a parlé tout à l'heure. Les centrales nucléaires, pour faire juste le projet du gouvernement, c'est 80 à 100 milliards d'euros. 80 à 100 milliards d'euros. Faire les lignes de train, à chaque fois une ligne de TGV ou une ligne du quotidien, c'est 10 à 20 milliards d'euros. Donc vous voyez bien que ces ordres de grandeur ne peuvent pas être financés par vos impôts. Il faut utiliser par exemple la contribution des plus privilégiés. Le Rassemblement national assume de recréer un impôt sur la fortune financière, de faire contribuer les plus privilégiés d'entre nous. Nous avons besoin de ces impôts pour les services publics qui sont déjà en difficulté. Donc si on veut faire les grandes transitions qu'on veut, il faut utiliser cette arme monétaire. Et ça ne créera pas d'inflation, puisque le péril de la création monétaire, c'est le risque d'inflation, puisque c'est l'économie réelle. On fait de l'inflation quand on met de l'argent n'importe comment et qu'on croit que le marché va bien l'utiliser. En mettant cet argent, cette création monétaire, dans des objectifs concrets d'économie réelle, d'investissement productif, d'économie d'énergie, il n'y aura pas d'inflation. C'est la seule façon, sincèrement, de pouvoir financer de tels défis.
Alors, un miracle a été évoqué tout à l'heure. Il s'en est passé un second ce soir. Tous les candidats ont parlé à quelques secondes près, le même temps, sauf Valérie Ayé. Donc vous avez une poignée de secondes supplémentaires, exceptionnellement, et vous pour parler maintenant.
Merci beaucoup. Alors tous les calculs le montrent, si on veut réussir la transition environnementale, il faut investir massivement. C'est notamment le rapport Pisani-Ferry qui estime à 60 milliards d'euros par an l'investissement nécessaire d'ici à 2030 pour réussir la transition environnementale. Et ces investissements, ils doivent être engagés par chacun d'entre nous, chacun des acteurs, les collectivités, l'État, les entreprises, les ménages. Donc c'est vraiment une démarche globale qu'il faut qu'on ait. Et il faut le savoir aussi, le gros de l'investissement, il va reposer sur des financements privés. Quand on parle de rénovation thermique des bâtiments, c'est évidemment pour les propriétaires. Quand on parle de transition vers la voiture électrique, c'est aussi les ménages et les propriétaires de voitures. Donc la condition sine qua non, c'est évidemment un enjeu de justice sociale, qu'on puisse accompagner les propriétaires d'appartements, de maisons à rénover leurs bâtiments, qu'on puisse accompagner, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les Français à se tourner vers la voiture électrique. C'est ce qu'on a fait notamment avec le bonus écologique, avec MaPrimeRénov, avec le Fonds social pour le climat qu'on a négocié au Parlement européen et qui va permettre d'accompagner les ménages les plus fragiles et les entreprises les plus fragiles. On a aussi un enjeu de compétitivité pour nos entreprises, pour les accompagner à aller chercher les solutions les plus innovantes. Donc, effectivement, on a besoin d'un choc d'investissement pour atteindre ces 1 000 milliards d'euros pour assurer la transition environnementale. Et ce choc d'investissement, en fait, on a déjà commencé à l'engager. La première étape de choc d'investissement, c'était début du mandat, 2020, plan de relance. La crise sanitaire est passée par là. On a engagé un grand plan de relance, vous l'avez évoqué, 750 milliards d'euros pour accompagner nos économies, faire que les restaurateurs de la place du ralliement ici à Angers ne mettent pas la clé sous la porte, mais faire aussi, utiliser cette opportunité pour accompagner et accélérer sur la transition environnementale. Et moi, ce que je trouve culotté, Manon Bry, c'est que ici, ça vous concerne, mais ça concerne toutes les personnes ici. À part Marie Toussaint, je dois le dire, personne ici n'a soutenu le plan de relance. C'est-à-dire que la première pierre à l'engagement dans la transition environnementale, c'est 250 milliards d'euros sur 750 milliards d'euros du plan de relance européen qui n'a pas été soutenu par les personnes qui sont ici face à vous. Le premier acte de la transition environnementale, je le redis, c'était ce plan de relance qui a permis de rénover les lignes de production, qui a permis d'engager la transition environnementale et d'accompagner très concrètement l'ensemble des acteurs en la matière. Maintenant, effectivement, ça ne suffit pas. Il faut accélérer. Il y a eu ce premier acte avec le plan de relance. Il faut qu'on puisse accélérer sur ce qu'on, ça a été dit par certains, les ressources propres. On a la taxe carbone aux frontières, on a les recettes du marché carbone qui vont nous permettre de récupérer un peu d'argent pour financer cette transition environnementale. Allons chercher de l'argent aussi avec la taxe sur les transactions financières. Et un dernier mot sur l'imposition sur les plus riches. Moi, je suis d'accord pour qu'on aille taxer les ultra riches, mais je pense que la bonne échelle, la bonne, non, c'est pas nouveau. On en a déjà, on avait déjà eu l'occasion d'en parler. Ah ben, laissez-moi terminer, Raphaël Glucksmann, s'il vous plaît. Je suis tout à fait d'accord pour qu'on aille taxer les ultra riches. Sauf que je voudrais bien que les ultra riches, ils restent en Europe et qu'ils n'aillent pas, parce que c'est un public. Vous l'attendez tellement, oui. Dubaï.
Allez,
c'est un public extrêmement mobile. On a un risque que les ultra riches, ils aillent aux États-Unis, en Asie ou à Dubaï. Et moi, je veux qu'on porte une négociation à l'échelle internationale, ce qui va nous permettre d'aller travailler sur le consensus, là où en Europe, on exige l'unanimité. Vous allez me dire, c'est impossible à faire. Je vous dis qu'on a fait sur l'impôt minimum sur les sociétés. On a un accord international qui est aujourd'hui effectif en 2026.
Voilà. Bien. Sur cette question de l'argent, du financement.
Donc, on le fait dans le monde.
Jean-Marc, quelles sont les propositions?
Je suis d'accord pour être dernier, mais j'aimerais bien pouvoir parler quand même.
Oh, c'est terrible.
Bien, c'est bien ce qui me semblait.
C'est terrible. Deuxième excuse, vous êtes vraiment à chaque fois... Vous êtes le dernier, là. Donc, pardon.
Non, il n'y a aucun problème.
À vous la parole pour 2 minutes 30.
On existe encore, vous allez voir. En fait, il y a... Merci. En fait, il me semble qu'il y a deux questions dans la question. Il y a la question du logement. Sur le logement, on s'est opposé avec détermination à un texte dont on a peu parlé, qui est le texte sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Je m'y suis opposé parce qu'en réalité, c'est la mauvaise manière d'aborder le sujet. Là encore, l'Europe renonce à la neutralité technologique et elle s'engage dans une seule option, qui est le tout isolation. Et ça, c'est clairement pas la bonne option. Ni du point de vue financier, parce que ça va coûter extrêmement cher. Le texte qui a été voté, c'est 35 millions de bâtiments à rénover en Europe dans les 10 prochaines années. Ça n'a pas de sens. Et deuxièmement, ça n'a pas d'impact environnemental bénéfique dans la mesure où en réalité ces programmes, on les a déjà testés en Allemagne, aux États-Unis. Beaucoup d'études ont montré qu'à moyen terme, ça n'a aucune espèce d'effet. Et ça a un coût environnemental à cause de l'extraction de matériaux, à cause de tous les chantiers qu'il faut faire qui ont évidemment un impact, y compris en termes d'émissions. La vraie solution, toutes les études le montrent, c'est d'électrifier les chauffages et de produire de l'électricité décarbonée. On revient toujours au sujet qu'on évoquait jusque-là. Ça, c'est le point logement. Maintenant, sur le financement. Il y a un point commun à tous ceux qui ont parlé avant moi, c'est ça l'avantage d'arriver en dernier, c'est que vous avez tous proposé de créer de nouvelles taxes. La vérité, c'est que la France est le pays au monde qui a le plus fort taux de prélèvement obligatoire. Et donc, s'il suffisait de créer des taxes, des impôts ou des emprunts pour réussir à protéger la planète... La France serait un paradis écologique. En réalité, c'est juste un enfer fiscal. La vraie solution, c'est de réussir à faire en sorte d'aller chercher l'argent là où il est et là où il dort. Et on en a besoin, en effet, de cet argent pour investir. Nous sommes les seuls à proposer une mesure pourtant essentielle. Le patrimoine, l'épargne des Européens, aujourd'hui, c'est 28 000 milliards d'euros. La différence entre l'Europe et les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, 45% de l'épargne va dans l'économie. En France, seulement 20%. Ça fait une réserve de 7 000 milliards d'euros. Donc, nous proposons de créer une plateforme d'épargne européenne pour investir dans l'environnement. Et ça, c'est bénéfique pour les épargnants. On le voit déjà avec les livrets réglementés. C'est bénéfique aussi, évidemment, pour les investissements nécessaires au climat. Les entreprises qu'on a vues tout à l'heure, Voltaire, mais aussi une entreprise qui ici transforment des déchets en granulats, elles ont besoin d'investir massivement dans leur développement. Elles ont des perspectives de rentabilité. Et moi, je ne crois pas que le retour au planisme soviétique soit la manière d'aborder le défi de la transition environnementale. Il faut s'appuyer sur les entreprises, il faut s'appuyer sur l'innovation, il faut s'appuyer sur la recherche et l'investissement et pour ça, mobiliser l'épargne des Européens en fléchant par des incitations leurs ressources vers cette incroyable perspective de développement que peut représenter la transition environnementale pour la prospérité de l'Europe de demain.
Merci, mais mes excuses ne valent pas ton supplémentaire. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Jean-Marc Jancovici, donc, sur cette question du financement et en particulier de la rénovation du bâtiment, qui est un point qui est particulièrement ardu et sur lequel il y a encore énormément de choses à faire.
Eh bien, le Shift Project n'a aucune proposition sur le financement, car nous touchons assez peu à l'argent. Alors pourquoi est-ce qu'on touche assez peu à l'argent? Parce qu'on essaye de regarder d'abord la manière dont l'économie s'organise physiquement, c'est-à-dire où sont les ressources et où sont les compétences, Et l'argent est quelque chose qui, malheureusement, n'a qu'une très faible capacité prédictive sur la disponibilité, ou pas une capacité prédictive complète, on va dire, sur la disponibilité future des ressources et des compétences. Donc on a malheureusement, ou heureusement, ça dépend des points de vue, au Shift Project, peu de propositions qui sont de nature financière ou économique sur cette affaire. Sur le logement, c'est clair que pour rénover les logements, d'abord on a un double enjeu, c'est que c'est contre le froid, mais maintenant de plus en plus c'est contre le chaud. C'est absolument évident qu'il y a de plus en plus de logements qui vont devenir invivables l'été. On voit déjà le sujet commencer à poindre. Ensuite, il y a un sujet évident de compétences. Aujourd'hui, si on veut rénover 1 million de logements par an de façon lourde, il manque 200 à 300 000 personnes dans l'artisanat du bâtiment. Donc, il faut les trouver et ça ne se trouve pas en un claquement de doigts. Il y a un sujet de confiance parce qu'en général, quand vous êtes un particulier, pour tous ceux d'entre vous qui ont essayé de faire des travaux, ce n'est pas très simple de trouver des gens en qui vous avez confiance et qui vont faire, etc. Donc en fait, il y a un vrai sujet d'organisation du système qui n'est pas juste un sujet d'investissement et qui n'est pas juste un sujet d'argent. Voilà, mais ça, c'était histoire de meubler le temps parce qu'encore une fois, sur l'argent, le Shift Project s'exprime peu.
Très bon meublage. Merci, monsieur Jancovici. J'ai le privilège de lancer la minute finale. Donc, vous allez chacun avoir 1 minute pour parler de vos propositions pour le Green Deal. Vous pouvez évidemment répondre aux allégations des uns et des autres pendant 7 minutes. Je sens qu'il y a de l'appétit pour cela. Et on va rester dans l'ordre prévu depuis le début. Ne vous inquiétez pas, pas trop de changements de ce côté-là. En plus du changement climatique, Valérie Ayé, c'est à vous.
Merci. Bon, on est à un tournant historique majeur pour notre Europe et dans la lutte contre le changement climatique. Le défi, on va le relever ensemble, et le Pacte vert, ça a été un élément de la réponse au défi climatique qu'il va falloir mettre en œuvre. Je pense que l'enjeu du prochain mandat, c'est le Green Deal 2.0, c'est la mise en œuvre de l'ensemble des politiques qu'on a adoptées sur ce mandat-là, et c'est évidemment un investissement massif pour aider les ménages, pour aider les entreprises, pour soutenir l'industrie verte en Europe. À l'occasion du mandat prochain et dans cette campagne, je veux aussi défendre la sortie des énergies fossiles. Sortie des énergies fossiles russes d'ici à 2025, sortie des énergies fossiles d'ici à 2050 pour ne plus être dépendant et véritablement accélérer à la fois sur le nucléaire et sur les énergies renouvelables. Et puis je porterai avec ma liste un pacte bleu. Puisque nous sommes, nous, France, mais Europe, une puissance maritime et les océans vont mal. On cite souvent la hausse des températures, mais ça vaut aussi pour les océans. Il faut protéger les océans, interdire l'exploitation des grands fonds marins, soutenir nos pêcheurs et lutter contre la pollution plastique dans les océans. C'est ce qu'on fera et ce qu'on portera pour être plus souverain d'un point de vue international, efficace d'un point de vue climatique et prospère d'un point de vue économique.
Merci. Merci Madame Ayé. Jean-Philippe Tanguy, votre proposition pour le Pacte vert.
Ma proposition pour le Pacte vert, c'est que les citoyens français et européens se posent la question de savoir pourquoi est-ce que tous les plans ont échoué. Pourquoi malheureusement la transition écologique est dans la passe? Pourquoi nous sommes en train malheureusement d'aller vers les 3 à 4 degrés malgré toutes les promesses? Et pourquoi parallèlement le Rassemblement national, lui, a toujours alerté les Français sur la réalité de cette impasse et proposé des solutions alternatives? Nous croyons qu'il ne faut plus opposer la question sociale et la question écologique. Nous pensons qu'il faut interroger les vraies responsabilités, en particulier la mondialisation libérale et ce règne de l'argent qui est en train de détruire la planète et tous les droits sociaux. Nous pensons qu'il faut savoir penser à des priorités, rationaliser, planifier d'abord l'industrie, ensuite le bâtiment, ensuite le transport. Et qu'il ne faut plus croire que c'est en pénalisant les gens par des taxes que nous allons trouver une solution. Donc le Green Deal aujourd'hui est une fausse promesse qui vous fait payer toujours plus cher la responsabilité de ceux qui ne sont jamais responsabilisés. Nous voulons mettre au cœur du projet européen le développement durable. C'est une belle notion qui malheureusement a laissé la place à l'écologie punitive. Le développement durable, c'est de savoir que l'on peut concilier, comme l'a montré le nucléaire, une meilleure production, un meilleur niveau de vie, tout en respectant l'environnement.
Merci Monsieur Tanguy. François-Xavier Mélamy, vous n'êtes pas le dernier. Allez-y, lancez-vous.
Ça, c'est incroyable. Non, je voulais d'abord simplement commencer par vous remercier infiniment pour ce débat. Je crois que c'était vraiment l'occasion d'un échange, j'espère, intéressant pour vous. En tous les cas, qui montre que le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment on aborde la question environnementale. Je crois qu'il n'y a pas d'un côté des gens qui sont plus ou moins favorables à la cause de l'environnement. C'est peut-être le cas. Mais en tous les cas, ça n'enlève rien au fait qu'en étant sincèrement convaincu de l'urgence de la décarbonation, il peut y avoir une diversité de manières d'aborder cette question. Et moi, je voudrais dire que notre défi à nous, c'est de mettre la science, la raison, la créativité humaine, la capacité d'innovation, de recherche, de développement au cœur de ce défi qui est majeur. Il me semble qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de traiter la question du climat
isolément du reste des sujets politiques qui sont face à nous, ça aura été certainement l'échec de la Convention climat en France, parce que si on traite le climat sans parler de la question sociale, sans parler de la dimension économique, sans parler de l'enjeu industriel, sans parler des questions géopolitiques, derrière la question de la décarbonation, il y a aussi effectivement la souveraineté de nos pays qui sortent, qui doivent sortir de la dépendance aux fossiles. Si on traite la question du climat seul, je crois qu'on ne peut que malheureusement commettre les erreurs qui ont mis aujourd'hui le pacte vert dans une impasse. C'est ça qu'il faut réussir à réorienter aujourd'hui.
Merci Bellamy. Monsieur Bellamy, je crois qu'il y a un consensus sur le... Pardon. Mais ça fonctionne. Il y a un consensus sur le sujet de souveraineté. Manon Aubry, c'est à vous.
Je crois que, et ce débat l'a démontré, que l'heure est grave. On est sur l'autoroute vers l'enfer climatique avec le pied sur l'accélérateur. Ces mots, ce sont ceux du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et qui résument bien l'ambition qui doit être les nôtres. J'ai entendu dans le débat quelques accommodations, quelques rustines, mais ce dont nous avons besoin, c'est d'un changement en profondeur de nos modes de consommation, de nos modes de production. Faute de quoi, on sera incapable de garantir, nous, notre génération, à nos enfants qui pourront vivre sur une planète habitable. Et ce dont on a besoin, en résumé, pour moi, c'est moins d'A69, des autoroutes promues notamment par les socialistes, mais plus de trains. Moins de traités de libre-échange, que tous les groupes politiques ici représentés votent, mais plus de protectionnisme, les groupes, je parle. Moins d'austérité, plus de solidarité, moins de marché et plus de planification. Bref, ce dont on a besoin, je pense, c'est moins de blabla et plus de cohérence. Et je crois que les faits parlent pour eux-mêmes. Merci.
Merci Manon Aubry. Raphaël Glucksmann.
Merci. On peut tous et toutes dire que nous sommes attachés à l'environnement et à la question climatique. Mais à la fin, la politique agricole commune actuelle, qui la soutient et qui ne la vote pas ? Qui soutient l'abandon des ambitions écologiques de la politique agricole commune ? Qui soutient les subventions à la pêche industrielle contre la pêche artisanale ? Et donc, c'est sur ces sujets-là, en fait, que s'établissent les clivages. Cette révolution écologique, l'émergence d'une puissance écologique européenne, ça supposera des ruptures difficiles. Et ça supposera d'affronter certains grands intérêts privés. Et ça supposera d'agir en équipe. Et moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on a déjà préparé au sein de notre liste eh bien, la répartition des rôles. On a dans la salle Thomas Pellerin-Carlin, qui va s'occuper, qui est un expert reconnu, et qui va s'occuper des questions de transition énergétique, des questions de révolution énergétique. On a Christophe Clergeau, qui va s'occuper des questions environnementales et agricoles. On a Aurore Laluc, qui va aller chercher l'argent pour financer la transition. Et moi, je m'occuperai de la mise en place de ce protectionnisme écologique européen qui est vital en commission commerce international. Parce que ça touche absolument toutes les commissions du Parlement européen et que c'est une révolution
Merci.
Globale.
Merci Monsieur Glucksmann. La parole va en dernier à Marie Toussaint.
Merci beaucoup et encore merci pour ce débat. Malheureusement, ce que vous avez entendu dans ce débat, c'était que des gens qui disaient que la question environnementale leur importait beaucoup et que quelque part, il fallait continuer à avancer dans la politique de protection de l'environnement. Mais ne vous y trompez pas. Aujourd'hui, le pacte vert est menacé. Menacé parce que la plupart des groupes qui m'entourent porte atteinte à toute avancée possible en vue de la transition écologique et en vue de la justice sociale. Ce sont d'ailleurs les mêmes qui se battent contre la protection sociale, contre l'accompagnement des salariés et des entreprises dans la transformation industrielle qui aujourd'hui sabotent le pacte vert en prenant prétexte de l'un pour porter atteinte à l'autre. Moi, je vous le dis. Et je veux vous le dire de manière transparente. Si nous avons obtenu le pacte vert en 2019, c'est parce qu'il y avait une immense mobilisation citoyenne pour le climat et parce que le groupe vert a été le plus puissant au Parlement européen que nous n'avons jamais eu. En 2024, alors que les droites, mais aussi la coalition du statu quo, entravent la capacité de transition écologique, la seule manière de pouvoir la poursuivre et l'accélérer, c'est d'envoyer le plus grand nombre de députés écologistes au Parlement européen le 9 juin prochain. Je compte sur vous.
Merci. Nous aurions pu continuer pendant des heures. Je sais que vous auriez aimé débattre davantage entre vous. Je sais que la salle aurait aimé débattre aussi. On l'a un petit peu entendu. Mais il me semble que le format en 4 thèmes a tout de même permis de montrer clairement des positions, des propositions, des oppositions. Et c'était évidemment l'un des buts de ce débat. Moi, j'étais assez rassuré de voir qu'aucun des candidats n'a une crampe de l'index en appuyant sur le micro. Et je pense que pour ça, mais aussi pour tout le reste, vous pouvez remercier les candidats qui sont ici.
Merci, merci aux candidats et à leur performance physique au micro. Également merci à Jean-Marc Jancovici d'avoir été avec nous. Je vous demande de l'applaudir. Merci également aux shifters de Angers qui ont organisé tout ce débat, qui vont vous dire un mot après. Applaudissez les tonnerres d'applaudissements. Merci. Jean-Marc et moi, nous vous donnons rendez-vous sur les réseaux sociaux pour le fact-checking. Et d'ici là, n'oubliez pas d'aller voter le 9 juin. Encore merci à tous. Les shifters.
Ce qui est cool, c'est qu'on a 5 minutes d'avance. Donc en théorie, je ne devrais pas avoir de difficulté à garder votre attention pendant 5 minutes. Ce sera les dernières. Je vais appeler tous les shifters qui ont contribué à l'organisation du débat de passer derrière les candidats. Les candidats, si vous pouvez rester en place. Jean-Marc, peut-être te rapprocher. Jean-Marc et Ania, si vous pouvez passer derrière pour être sur la photo également. Et on va faire une photo avec tous les bénévoles qui ont contribué à l'événement. Je vais passer derrière et j'aurai un message à vous donner tout à l'heure. Bon, je me mets à côté de Jean-Marc. Bon, je vais faire le faillot.
C'est là-haut les photos, là. Bon, c'est bon.
Allez. Donc, moi, à mon tour, je voudrais remercier tous les débatteurs. J'espère que, comme moi et nos collègues shifters, vous avez apprécié la tenue du débat. Moi, j'ai apprécié que vous ne vous coupiez pas la parole, qu'on puisse comprendre clairement vos programmes pour les prochaines élections. Merci mille fois pour ça. Je voudrais également remercier Jean-Marc. On l'a fait, je voudrais le refaire. Et je voudrais remercier nos deux animateurs, un deuxième Jean-Marc et puis Ania. Merci à tous. Je vais vous donner quelques précisions logistiques. On a un deuxième amphi juste à côté qui ont regardé le débat en retransmission. Donc, je vais aussi m'adresser à eux. Donc, pour vous qui êtes à côté la sortie, vous aurez des shifters qui vont vous distribuer des flyers. Dans tous les cas de figure, tous les participants à ce débat dans les deux amphis, vous êtes invités à passer le cas échéant sur le stand shifter, qui est sur le parvis à l'extérieur du bâtiment, en face de l'entrée principale. Donc, on va vous renseigner. Pour tous ceux qui veulent nous rejoindre et défendre la cause, vous êtes les bienvenus et le groupe local se fera un plaisir de vous accueillir. Je voudrais également préciser qu'en novembre, comme l'année dernière, le groupe des shifters locaux va organiser un festival de cinéma sur la transition climatique. Donc, je vous invite à surveiller les réseaux sociaux. Peut-être on vous sollicitera pour nous aider financièrement et on vous sollicitera probablement également pour nous aider dans l'organisation de ce bel événement qui sera le prochain très grand événement du groupe local de Shifter Angevin. Pour les consignes de départ, tous les gens qui sont en gros sur les six premières travées, celles qui avaient une étiquette réservée ou IAE, vous êtes invités à sortir par cette porte-là. Donc, il y a des manches debout, il y aura probablement quelques journalistes. Tous les autres, vous êtes invités à sortir par cette porte-là.
C'est la sobriété.
Merci à tous et très bonne soirée.